Boulevard 102.1.
Bon lundi 4 mai. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, midi 1 minute exactement, ton émission d'actualité du midi. On en jase où on traite d'actualité locale, actualité provinciale. Ça va être vraiment son menu aujourd'hui. Ouais, une petite conférence de presse de respect citoyen sur les pistes cyclables. Notre ami Mathias Turcotte y était. On va nous faire un résumé vers la fin de la première heure de ce show. Évidemment, on parle de sport. On va revenir sur cette victoire du Canadien de Montréal hier. 9 maigres tirs au filet. Aucun tir en deuxième période, mais Jacob Dobesch qui décide de voler le match. Et le Canadien passe en deuxième ronde. Et ce sera le retour tant attendu d'Antonine Iaccarini dans quelques minutes. Elle est avec nous via Zoom. Faut qu'elle reprenne des forces encore un peu. Mais maudit qu'on est content d'y jaser. Pascal CV, comment était ta fin de semaine?
Salut, ça a bien été. Toi, ouais. Ton demi-marathon?
Super bien été, très content. Faisait beau, la vie était belle.
Faisait pas trop chaud aussi, vous deviez être bien pour ça.
Exactement, on a trotté sur le bord du fleuve. Le plus beau panorama de Québec, c'est à Lévis. Puis le demi-marathon se passe sur le bord du fleuve à regarder Québec.
Fait que c'était encore toute plein. Beauté. C'est tellement une réussite, là, la façon dont ils arrangent ça, avec les physios sur place, les collations, l'animation.
Plus de 11 000 coureurs au total pour le 2 km pour les enfants, 5 km, 10 km et demi-marathon le dimanche.
Wow, félicitations!
C'est vraiment extraordinaire comme événement. Franchement, bravo à la gang de Gestev qui organise ça de... façon impeccable. Je te dirais que moi, c'est la quatrième fois que je le courais. C'est la première fois que je voyais un aussi gros banc de neige dans le parking des Galeries Chagnon. À ce moment-là, on part des Galeries Chagnon, fait qu'on part à côté du stationnement. Puis à côté de nous, c'était un peu surréel. T'es en manche courte, t'es prêt à aller courir 21 km. Puis t'as l'énorme banc de neige, tu sais, que tu regardes, qui est encore, il reste 7 pieds de haut. C'était assez, assez spécial à vivre. Dis-moi donc, Pascal CV, qu'est-ce qu'on a dans l'actualité avant de parler? Avec Antonine Iaccarini.
Oui, on est content de la retrouver. Puis il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Il y a des annonces importantes, entre autres, le nouveau chef de police est nommé à Québec. On attendait d'avoir un nom. Celui qui va remplacer Denis Turcotte, c'est Dominique Gaudreau. Et je vous rappelle que Denis Turcotte prend sa retraite en juin. Alors, on était là à attendre qui va s'occuper de ce gros pan de notre sécurité, là, qui est en demande, qui est extrêmement complexe depuis plusieurs années. On sait, ça a des gros défis pour la Ville de Québec, le service de police, avec tout ce qui est la montée du crime organisé puis de la guerre des stupéfiants. Et là, la nomination est effective après l'adoption de résolution au conseil municipal le 5 mai et au conseil d'agglomération le 6. Donc, c'est près de 30 ans d'expérience pour Dominique Gaudreau, qui devient le 23e directeur du SPVQ. On en reparlera. Déploiement du dossier santé numérique, eh bien, la première ministre, Christine Fréchette a affiché clairement sa posture. On ne peut plus repousser la modernisation. On va de l'avant. C'est un message initialement publié sur les réseaux sociaux. On dit vouloir rassurer les Québécois en expliquant que le 9 mai, on va de l'avant dans deux projets vitrines. Un en Mauricie, centre du Québec, et un autre à Montréal. Donc, c'est deux projets pour s'ajuster, faire les choses correctement. On ne se cache pas, par contre, du fait qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes de la part des gens sur le terrain, pour le personnel aussi. Mais on tente de rappeler que c'est pour avoir un meilleur accès aux informations, laisser le fax de côté, moins de paperasse, une information centralisée. On sait pourquoi c'est fait et mis en place, mais on sait aussi pourquoi il y a des inquiétudes de la part de certaines personnes. Puis dans les deux cas, on nous le rappelle là, aujourd'hui. Et Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'attend à ce que le gouvernement Carney fasse plaisir à Mme Fréchette. Donc, on veut empêcher les indépendantistes de prendre le pouvoir à Québec le 5 octobre. C'est ce qu'il a dit en point de presse. Donc, on réagissait à une entrevue qui a été accordée là, avec le bureau parlementaire du côté de Québécois à la première ministre, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a commencé sa semaine avec vigueur.
Elle est de retour avec nous.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Iaccarini qui est de retour. Je me joins à Marc et à plusieurs autres auditeurs. Anto qui disent « Oh yes, le retour d'Antonin Iaccarini. Comment vas-tu? »
Hey, je suis tellement contente de recommencer le caucus. Oui, vous n'avez même pas idée. Faut que vous sachiez, Jeff et Pascal, que je suis la pire personne pour se reposer.
OK. Toi, il faut toujours que tu fasses de quoi, hein?
Je suis comme un requin. Tu sais, les requins, il paraît qu'il faut toujours qu'ils nagent, sinon ils meurent, là. Moi, je suis un petit peu comme ça. Je fantasmais un peu sur un congé. Je me disais, hey, je vais vraiment pouvoir me reposer. Tu sais, ça va vite. Ça va me faire du bien. Ouais, mais tu sais, après 4-5 jours, là, écouter des séries puis lire des livres, là, je vous dirais que j'avais un peu fait le tour. Donc, parce que après ma chirurgie, j'ai subi une chirurgie, comme vous savez, là, qui n'est pas très grave, mais qui est quand même, tu sais, ça demandait une
Qui est quand même
convalescence de
très
quelques
physique, là,
semaines.
exactement.
Exact. Dans les choses que je dois respecter, ben, j'ai pas le droit de lever des charges ou d'exagérer en activité physique, mettons. Quand on parle de lever une charge, je veux juste vous dire, c'est le poids d'une théière remplie d'eau.
Que ça, c'est
C'est le
trop, là.
maximum.
D'accord. Donc,
Tu sais,
t'avais un
fait
livreur
que
de
le ménage
café
du
le
printemps,
matin?
là.
T'avais un livreur de café le matin?
Ouais, le café, ça, je l'ai à
T'étais
temps plein
correct?
à l'année longue, là. Ça, c'est
Parfait.
réglé. Mais
Excellent.
tu sais, pour moi, congé, puis je sais pas pour vous autres, là, mais moi, j'aime ça faire des projets. La fin de semaine, les semaines de
Ben
relâche, les semaines de
oui.
vacances. Faire le ménage des garde-robes, sortir du stock, puis amener ça au YW, pour me débarrasser un peu de mon linge, sortir le stock d'été.
Ouais. Donc là, tu étais absente 3 semaines avec nous. Là, tu nous parles de ta première semaine où tu as dû relaxer. Mais attends, là, je pense aux 2 autres semaines, Pascal. D'après moi, il y a eu un peu pareil de travaux à l'extérieur. Antonine m'a déjà dit qu'elle aimait jardiner. D'après moi, le jardin doit quand même avoir été travaillé. Je me trompe-tu?
À moitié, parce
OK.
que honnêtement, j'ai pas le choix. Je vais dire bien franchement, l'énergie me baisse assez rapidement, puis la fatigue me prend comme par surprise. Puis ça, je suis pas
Ah
habituée, parce que
oui.
je suis quelqu'un qui roule à 150 % tous les jours ou à peu près. Puis, tu sais, entre nous et nos nombreux auditeurs, si je me repose pas assez puis que je respecte pas les règles que le médecin m'a données, c'est moi la pire. Ça va me prendre plus de temps avant de m'en
Ben,
remettre.
c'est ça, exactement. Tu sais, moi, j'ai été en arrêt de travail dans ma vie, mais pour une toute autre raison, là, c'était une dépression. Mais je comprends ce que tu vis dans le sens que moi aussi, je suis quelqu'un qui est à 100 millions de pourcents, 1000 à l'heure. Puis là, quand ton corps te dit, hey, c'est le temps d'aller faire une sieste ou c'est le temps de t'asseoir, au début, maudit que c'est frustrant parce que tu dis, voyons, on l'avait cette énergie-là, mais moi, ça, je l'ai pas, tu sais.
Exact, exact. C'est pas facile. Mais cela dit, j'ai toute ma tête, mon cerveau est en pleine forme. J'ai pas, dans le cadre de ma chirurgie, j'ai pas eu à prendre beaucoup de médication ou quoi que ce soit. Donc, j'avais vraiment hâte de recommencer à suivre la politique. Donc, j'ai vraiment décroché la première semaine. J'ai rien écouté, là. Ça, pour moi, je vous
Hey,
dis,
ouais.
c'est pas facile.
Non, non,
Puis la deuxième semaine, ben là, j'ai recommencé à écouter, à lire les journaux. Donc, ce matin, je me sens vraiment prête à recommencer. Puis, écoute, je dois dire que le calendrier est de mon bord, là. La rentrée parlementaire, c'est demain.
ben oui.
Madame Fréchette m'a attendue avant
Ouais.
de recoller l'Assemblée
Vraiment. Ben,
nationale. Fait qu'on la remercie.
j'ai l'impression que ça faisait partie justement des conditions. Anto, tu sais comment je t'apprécie autant que nos auditeurs. Donc, je t'ai préparé un cadeau juste pour toi parce que je suis certaine, mais je suis certain que tu es en feu grâce à ça.
Reçu. On passe pour un tir. Le tir. L'arrêt partiel de Vasilevski. On a rebondi.
Alex Newhook qui a marqué le but gagnant
Ben
hier,
oui.
Antonine. Le
Ben oui, j'ai vu ça.
Canadien l'emporte 2-1, gagne la série 4-3. On va en parler aux alentours de 12h40 avec Alex Laramie, notre chroniqueur sportif. Mais ça doit vraiment avoir meublé ton congé, le Canadien de Montréal.
Écoute, Jeff, je sais que tu es en train d'être sarcastique et de
Oui.
me taquiner, mais étant donné que j'ai eu beaucoup de temps pendant mon congé, il y avait un
Ouais.
petit peu plus d'espace dans ma
Hein?
vie pour m'ouvrir à d'autres choses.
Alors, t'as regardé le hockey?
J'ai regardé le hockey. Alors, je l'ai vu, le but de ce monsieur Newhook que je ne connaissais pas du tout. Et on m'a expliqué que c'était assez surprenant là, que ce but-là survienne dans le match d'hier. Mais oui, j'ai suivi le hockey. Alors, je pourrais pas te faire une chronique,
Ouais.
évidemment, sur le hockey parce que on a des professionnels, là, on a des experts pour ça qui sont
Ouais.
mieux que moi. Mais je sais qu'est-ce qui se passe présentement, pour une fois.
Wow! C'est vraiment, vraiment hot. Mais une qui est contente, là, puis là, corrige-moi si je me trompe, de cette envolée-là pour le Canadien de Montréal, c'est Christine Fréchette. Le monde est positif, là. Tu te promènes dans les rues de
Hey!
Montréal, tu te promènes dans les rues de Québec, je suis certain que tu te promènes dans les rues au Saguenay. tout le monde te dit « Hey, il y a le Canadien en deuxième ronde des séries. Hey, la coupe, on y croit. C'est pas grave si Caulfield score pas. Nos plombiers font la job avec Kirby Dack. » Donc là, Christine Fréchette, elle arrive avec son calendrier. 100 jours, je vais vous annoncer une action par jour, un résultat par jour. Puis là, ben ça fait juste embarquer dans le bonheur des gens. Hein? Gardons ça. Christine Fréchette va partir à l'hôpital Maisonneuve Rosemont. Hey! Gardons ça. Christine Fréchette vient de négocier ça avec Mark Carney. Hey! Fait que là, ça fait juste continuer bonne nouvelle.
Écoute, ça ne peut pas nuire parce que t'as raison. Les gens sont de bonne humeur. Le Québec vibre au rythme du hockey en ce moment et pour vrai, ça prend beaucoup d'espace dans la tête des gens et dans les médias. Donc, veux pas, ça fait un petit peu moins d'espace mental pour gratter, surveiller, chercher des poux au gouvernement. Puis, tu sais, Mme Fréchette, elle vient d'arriver. Les gens, je pense, laissent une chance à la coureuse. Et elle a quand même très bien réussi son départ. Moi, j'ai trouvé, tu sais, tu te rappelles, on était en émission spéciale le jour de sa victoire de la course à la chefferie. J'étais pas là, renversée par la qualité de son discours ce jour-là.
Je suis de la génération X.
Ouais, c'est ça. Je me devais pas me sentir concernée vu que moi, j'en fais pas partie de la génération X. Mais j'ai trouvé par la suite que l'opération de communication et comment elle a profité de la pause de l'Assemblée nationale. Vraiment, c'est un bon coup de communication politique et d'image.
Je suis très, très, très d'accord avec toi. Hier, une petite publication sympathique avec son gilet du Canadien. 26 fréchettes qu'elle avait reçues de Soraya Ferrada Martinez. Puis là, elle se pose devant le match. Puis elle dit, j'espère qu'on va gagner. Donc, tout est
c'est
là.
C'est du bonbon, là.
C'est du bonbon. Tout est là à l'heure actuelle. Bon, elle est vivement critiquée par le PQ d'être trop rouge, d'être trop à la solde du gouvernement canadien, notamment lorsque, dans la mise à jour économique, François-Philippe Champagne a annoncé des investissements majeurs pour la formation des travailleurs en construction. Mais d'un autre côté, là, ça va chercher plein de gains politiques dans son 100 jours avec le Canada, là. Ça va être positif, pas à peu près. Puis, ce matin, je disais ça, corrige-moi si je me trompe, je pense qu'au PQ, le 28, 29, 30 % là, qui vont voter PQ, c'est pas mal canés qui vont voter PQ, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens là, dans les régions, et le PQ frappe fort dans les régions. Mais le 24, 25, 26, 30, dépendamment des sondages du PLQ, il est fragile en tabarouette, celle-là.
Bien, écoute, ton hypothèse est celle que j'entends beaucoup en ce moment, que c'est plus du côté du Parti libéral que Christine Fréchette pour aller faire des gains. Mais moi, je pense qu'elle peut aller en faire des deux côtés. OK?
Oui.
Parce qu'il y a quand même pas mal de votes péquistes encore qui est parqué là parce que ben, ils aimaient bien Paul Saint-Pierre Plamondon, donc la CAQ était en chute puis qu'on cherchait une alternative puis qu'on dirait qu'il y avait juste le PQ qui était solide pendant plusieurs années. Mais il y en a quand même pas mal là-dedans qui ne veulent pas de référendum. Donc, Christine Fréchette, elle le sait et elle continue de marteler ce message-là, que le nationalisme sans référendum, c'est à la CAQ. Le problème avec Mme Fréchette, c'est qu'il y a quand même le bilan de la CAQ à porter sur ses épaules et la marque caquiste est tellement abîmée, usée, que c'est quand même tout un défi pour elle. Mais c'est vrai aussi que du côté des libéraux, des gens qui pourraient se dire « ben moi, je veux pas de référendum, l'économie, c'est important pour moi, je veux une approche plus apaisante, peut-être moins divisive que celle de M. Legault » et qui aurait pu voir en Charles Milliard là, la bonne personne pour ça. Ben Christine Fréchette, elle a un petit peu le même style que Charles Milliard. Ils se ressemblent dans leur approche de collaboration et tout ça. Mais tu vois, le PQ, tu sais, moi, je me disais, est-ce que les partis d'opposition aujourd'hui, là, demain pour la rentrée parlementaire et cette semaine, vont vouloir vraiment rentrer dans Mme Fréchette alors que tu peux avoir envie de laisser une chance à la coureuse vu que ça va bien? Bien, le PQ a déjà répondu à ma question. Ils vont rentrer dedans. On a déjà, effectivement, le chef et Alex Boissonneau, j'ai un communiqué de presse qui est rentré ce matin, où est-ce qu'on dit, dans le fond, Christine Fréchette égale libérale. C'est la même technique. Là, on va vous dire, on va aller chercher des gains parce qu'on est gentils. Les méchants souverainistes ne font pas de gains, alors que nous, on liche le gouvernement fédéral en si je peux résumer comme ça, puis comme ça, on va vous chercher des gains. Donc, ce que le PQ dit, c'est encore la bonne vieille recette libérale qui est appliquée par Christine Fréchette. Est-ce que ce message-là va vraiment percoler dans la population? Je ne le sais pas. Chez certaines personnes, oui. Mais il y en a beaucoup. Et je dois dire, là, Jeff, là, je regarde sur les médias sociaux les commentaires. Les gens sont tannés de la CAQ, oui. Mais j'en vois beaucoup qui veulent laisser une chance à Mme Fréchette. Et j'ai l'impression que on est dans un nouveau cycle politique où incarner le changement, c'est pas d'être le plus fort, celui qui parle le plus fort et celui qui a les lignes les plus assassines et les messages les plus dérangeants. J'ai l'impression qu'après les années de M. Legault, on est plus dans un changement apaisant. C'est mon impression.
Non, c'est une bonne impression que tu as. Puis en même temps, 65 % des gens ne veulent pas de référendum. Fait que quand Paul Saint-Pierre Plamondon sort pour dire « Hey, regardez, ils veulent encore se coller au Canada », pas certain que ça percole chez l'électeur qui est encore indécis.
Bien, c'est qu'on a l'impression que la CAQ, c'est fini, mais la troisième voie, pour moi, c'est pas fini. Il va y avoir peut-être une traversée du désert. Puis là, encore là, je suis pas en train de vous dire que Christine Fréchette va gagner la prochaine élection. Hein. On s'entend qu'on regarde les projections, puis on n'est pas là du tout. La CAQ doit recruter des candidats. Bref, il y en a beaucoup de défis. Mais il y a des opportunités, puis il y a des fenêtres dans lesquelles elle peut s'insérer, ça, c'est clair.
Écoute, ça fait juste élire 10 députés, ça sera déjà ça de gagner. Hey, parlant de gens qui n'entendaient pas à rire, Antonine, en fin de semaine, je vous fais entendre la chanson « La manifestation des Cowboys fringants », mais avec un visuel complètement différent. On s'amuse! On a une guillotine! On a une poupée de Jean Boulay! Hop! Là, on vient de se couper la tête! Ça crie! Et là, on a deux bonhommes syndicaux qui bottent la tête tel un botté de dégagement de football!
Ça tue pas d'allure!
Ça n'a pas d'allure! Et là, on vient d'apprendre que le SPVM va ouvrir une enquête. Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée parce que, écoute, c'est si t'écris sur les médias sociaux « Jean Boulay, je vais te décapiter », c'est une menace de mort. Puis là, on s'entend, c'est pas une menace verbale, mais c'est une menace en geste assez évidente.
Écoute, évidemment, ça a enflammé le web en fin de semaine. Les premières images, là, c'est Rebel News qui les a rapportées. C'est une guillotine. Tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui a fabriqué une guillotine.
Oui, puis une poupée de Jean Boulay.
Oui, il a fabriqué une poupée de Jean Boulay en papier mâché. Hein, et... En vue de cette manifestation, parce que, bon, il faut savoir pourquoi l'occasion, c'est le 1er mai, là, c'est le jour des travailleurs, puis il y a toujours une grande marche là, de travailleurs, là, puis c'est géré par les syndicats, évidemment. Mais il y a quelqu'un qui a préparé ça. Là. C'est pas genre, tu sais, des fois, il y a un petit débordement dans une manifestation, hop, là, puis
ouais,
c'est
ouais,
des choses qui arrivent.
Il y en a un qui tire une roche sur une flight, puis là, ça nature 15 ans en tirer, là.
Exact. Non, là, on parle de quelqu'un, de quelques personnes, probablement.
Dans son garage...
qui s'est dit « c'est une maudite bonne idée, je vais faire une guillotine ». Tu sais, je veux dire, c'est tellement violent à la base,
ben oui.
Une guillotine, franchement. Et on va décapiter Jean Boulay, puis après ça, on va y botter la tête.
C'est ça.
Je veux dire, en termes de manque de respect, je ne vois pas pire que ça.
Puis le SPVM, le service de police de la ville de Montréal, le prend au sérieux parce que ce qu'on apprenait dans la dernière heure, les dernières minutes, là, c'est qu'on va avoir une enquête sur la simulation de la guillotine dont on parle en ce moment là, directement avec les policiers de Montréal.
Puis... oui, effectivement. Puis d'ailleurs, tu sais, là, on parle de la police, puis c'est bien correct. Puis moi, je pense qu'il y avait effectivement matière à se pencher là-dessus. Puis les champions, là, ils ont été filmés, puis on voit leur face, puis ils sont pas joignés pantoute, là,
non, fait
que bravo. Mais moi, c'est la réaction des syndicats que je surveillais, parce que c'est vraiment le genre de geste, même si tu sais que c'est pas organisé par les centrales syndicales comme telles, il faut que tu condamnes fermement ce genre de geste-là. Là. Puis, tu sais, ils se sont dissociés, ils ont dit « c'est pas nous, c'est pas ça ». Puis c'est correct, mais honnêtement, je m'attends à des condamnations qui sont plus fortes et même à des conséquences.
Je suis tellement content de t'entendre dire ça parce que ce matin, on parlait avec Marc Rangeux, spécialiste syndical justement pour Boulevard 102.1. Puis j'ai eu une petite conversation avec lui à l'effet que lui, il dit « Ah non, les syndicats sont sortis, ils ont dit que c'était pas correct, c'est beau, dossier fermé. » Mais moi, je dis « Non, les syndicats, quand il y a de quoi qui font pas leur affaire pour le gouvernement, ils font un point de presse, les quatre ensemble.
Oui. »
Puis maudit que là, il chique la guenille, là. Puis quand Magali Picard se retrouve en commission parlementaire, elle n'hésite pas à dire que Jean Boulay, c'est un innocent. Fait que, elle peut-tu dire que ce monde-là qui ont bâti la guillotine sont innocents aussi, s'il vous plaît?
Oui, ça me semble que ça serait comme le minimum. Mais tu vois, à chaque fois qu'il arrive des affaires comme ça, ça me surprend pas que la réaction soit un peu molle. Tu sais, c'est des gens qui sont qui veulent aller recruter des membres. Il y a toute une dynamique politique aussi dans les syndicats. Puis on racole les membres, puis on va chercher, on essaie d'avoir le plus de membres possible, puis de montrer que c'est nous qui défendons nos membres le plus fort. Puis sais, ça, ça vient des fois vraiment ternir leur image auprès du reste du Québec. Puis tu sais, les bonhommes là, qui ont fait le geste, là, ben, évidemment, ils n'ont vraiment pas aidé la cause des travailleurs
ben
cette semaine. C'est sûr. Mais la réaction des syndicats était sous haute surveillance. Puis tu sais, je leur donne pas une note parfaite du tout. Moi, je pense qu'ils auraient dû réagir plus fortement, vraiment condamner, puis dire, envoyer un message très, très clair que parmi leurs rangs, c'est des gestes qui sont complètement inacceptables, que tout geste de violence est condamnable. Et j'ai été un peu déçue à ce titre-là. Puis, tu sais, dans les faits, là, Jeff, là, ça fait juste à aider le gouvernement, ça.
Ben oui.
Jean Boulet, déjà à la base, Jean Boulet, je veux dire, c'est pas le ministre le plus divisif là, qui rentre dedans. Je comprends qu'il a fait des projets de loi qui ne plaisent pas aux syndicats, mais je veux dire, tout ce qu'ils ont fait, c'est augmenter le capital de sympathie de Jean Boulet, en fait, maintenant.
Mais c'est tellement un bon point, ce que tu amènes là, parce que c'est pas lui qui est en train de persécuter les... Mais jamais, jamais, jamais. Il y a un certain décorum politique qui est toujours quand même dans la discussion. Il attaque pas, il a pas fait d'erreur de quoi que ce soit jusqu'à maintenant dans une communication agressive, mettons, comme on a pu voir chez d'autres politiciens.
Il a toujours le bon ton. Oui. Bon, il fait une gaffe pendant l'élection, mais ça n'a rien à voir avec les syndicats. Donc, honnêtement, c'est que tu dis, si tu décapites Jean Boulet, qu'est-ce qui te reste après? Là? Ouais, je veux dire, c'est ça des fois aussi avec les communications des syndicats. T'sais, tu lis leur communiqué, puis c'est quasiment là, le projet de loi est un génocide contre les travailleurs. Puis là, tu dis, non, mais essayez-vous de toujours aller le plus loin possible et d'être le plus exagéré c'est possible. Là, je généralise, ils ne sont pas tous de même.
Non, mais je comprends très bien. Jean Boulet, dans le fond, il demande de la transparence dans les états financiers puis de la transparence dans le vote. Puis là, c'est comme si, justement, là, c'était Adolf Hitler qui essayait de réduire les syndicats au néant en les faisant porter dans la chambre à gaz, là.
C'est tout ce qui est exagéré devient
insignifiant. Tout ce qui est exagéré aussi amène des comportements exagérés, comme on a vu à la manifestation.
Ben c'est ça. Puis tu sais, moi, je veux pas dire que c'est de la faute à Magali Picard puis aux autres chefs syndicaux, qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu sais, avoir le bon ton,
ben,
puis être
c'est
constructif,
ça.
C'est important aussi. Puis ça aussi, ça envoie un message. C'est aussi la culture dans l'organisation qui est à... Il faut se poser des questions quand on voit des gestes comme ceux-là, même si je les prends pas comme responsable direct. Mais disons qu'on est dans l'enflure verbale très souvent. On n'est pas nécessairement dans la violence, mais le bon ton serait apprécié, s'il vous plaît.
Et là, c'est un geste violent avec la guillotine. On parlait de notes tout à l'heure, chère Antonine. Je te laisse entendre Sonia Lebel ce matin en entrevue avec Mario Dumont sur les ondes de LCN. Son niveau de confiance pour DSN sur 10.
Ben, je dirais que je suis à 8,5 sur 10.
Confiante.
Confiante. Pas okay. 8,5 de dérapage. Non, au contraire. 8,5 confiante.
8,5 sur 10 confiante. C'est assez pour se lancer ce samedi 9 mai.
D'abord, c'est pas Sonia Lebel, mon cher Jeff, mais bien Sonia Bélanger.
Sonia Bélanger, je m'excuse, j'ai fait un lapsus.
On a deux Sonia dans le Conseil des ministres.
Ben oui, hey, j'ai fait un lapsus en l'écrivant, tiens, c'est pour ça que j'ai dit Sonia Lebel.
Il n'y a aucun problème, mais je voulais juste être bien clair. Hey, on parle
merci.
Du système de santé.
Bien sûr.
Et donc, c'est Sonia Bélanger. Oui, pour moi, 8,5 sur 10. Premièrement, à tomber dans le piège, parce que généralement, quand on conseille des politiciens, on leur dit toujours de ne pas se donner de notes, puis de ne pas tomber dans les chiffres, puis être allé. Mais oui, je pense que c'est suffisant. Puis je sais que l'opinion populaire en ce moment, là, c'est de dire ça va être un fiasco, parce que c'est vrai qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait des couacs. Okay? C'est un projet numérique, de transformation numérique qui est majeur. Notre système de santé, il est très compliqué. Et il est déjà à bout de souffle. Tu sais, c'est pareil, là, si vous avez une entreprise et qu'il faut que vous changiez de système informatique, là, il va y avoir des irritants, on est d'accord? Ça va être compliqué, il y a une gestion du changement.
C'est toujours ça.
Tu vas perdre du temps, tu vas perdre la productivité pendant un petit bout de temps. Puis après ça, ben, normalement, tu vas voir une amélioration. Hey, imagine, on ne parle pas d'une entreprise, d'une PME, là, on parle du système de santé avec toute sa complexité. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais je reviens à ce que Gilles Bélanger, l'ancien ministre du numérique, justement, avait dit avant de partir. Lui, il s'était attaqué à la question de la sécurité de nos données. Ça, c'est un enjeu qui est d'abord hyper important parce qu'évidemment, les données de nos jours, je veux dire, c'est tout est sous forme de données, puis on sait comment ça peut être mis à risque. En plus, on a des enjeux, des inquiétudes par rapport aux entreprises américaines parce que avec tout ce qui se passe au sud de la frontière, ça augmente notre anxiété. Puis là, tu as le ministre qui vient dire « Ouais, nos données sont pas en sécurité. » Évidemment que ça ne met pas une ambiance de confiance dès le départ. Ça, c'est la question des données. Puis moi, je pense que nos données, j'ai posé des questions à Santé Québec, je me suis penchée un peu sur le dossier. Puis tu sais, il n'y a jamais de garantie à 100%, mais je pense que M. Bélanger a hautement exagéré dans ses déclarations. Mais après ça, il y a tout le reste. Il y a le déploiement. Est-ce qu'il va y avoir des bugs? Est-ce qu'il va y avoir des insatisfactions? Est-ce qu'il y a des employés qui vont trouver ça difficile? C'est sûr que ça va arriver. Mais est-ce qu'on va rester au fax encore pendant des années parce qu'on est frileux, parce qu'on ne veut pas faire la gestion du changement?
La réponse, c'est non, parce que de toute façon, par fax, il y a plein de rendez-vous qui se perdent à l'heure actuelle. À preuve, là, ici, au CHU de Québec, on a vu à peu près 8000 dossiers là, qui s'étaient perdus. Là. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour rassurer les gens, la ministre Bélanger a dit, écoutez, c'est 4000 formateurs qui vont être sur le terrain avec notre gang, donc des gens qui ont la formation à 100%, qui l'ont donné aux employés. Puis là, c'est tous les corps de métier qui vont être représentés. Du médecin à l'infirmière, au physiothérapeute, à l'ergothérapeute, qui vont être sur le terrain de jour, de soir, de nuit. Elle a tenté aussi de rassurer les gens qui sont atteints d'un cancer et à l'effet qu'on a mentionné dans les médias qu'il y aurait des retards.
Puis, vous savez, les patients qui sont dans des situations d'urgence ou dans des états critiques, les médecins sur le terrain me l'ont dit, ils ne seront pas visés, là, naturellement. Ça fait partie du 25% de services là, qui va être rendu à la population. Alors, bien sûr, on va être comme si on travaillait un week-end pour comparer, pour que les gens comprennent. Alors, c'est pour ça qu'on fait le changement dans la nuit de vendredi à samedi, puis on va essayer de revenir à 50% d'activité, 75 et 100% le plus vite possible.
J'ai trouvé très intéressant ce paramètre-là. Je l'avais, peut-être c'est moi qui ne l'avais pas saisi, mais on commence vraiment à 25% pour les centres visés. Et là, par la suite, ça va être 50, 75 et 100% graduellement. Ça, honnêtement, ça me rassure parce que je vois une suite logique dans ce changement-là. Ce que je voyais pas, puis je le dis, peut-être faute de mon côté, mais moi, je voyais, OK, on change pour changer, puis here we go. Là, dans cette progression-là, je pense que le gouvernement se donne plus de chances de réussite.
Oui, puis tu sais, il faut dire la vérité. On est traumatisé parce que c'est passé à la SAC.
Ben oui.
Et avec raison, parce que ça a été un vrai fiasco. Mais tu sais, il y a plusieurs différences. La première, c'est ça. C'est qu'on le fait graduellement, alors qu'à la SAC, on avait fermé 3 semaines pour tout faire d'un coup. Puis la compagnie disait, il n'y a pas d'autre manière de faire, c'est comme ça. Honnêtement, là, tu sais, c'est pas vrai que tu es obligé de faire ça tout d'un coup. Donc, il y a l'approche qui est différente. Puis la deuxième différence, c'est que ben, dans le cas de Saclic, il y avait de la corruption là, à travers ça. Là. Évidemment, on va laisser les enquêtes suivre leur cours, là, mais vous avez vu la commission Galant comme nous autres, puis il y a eu de la magouille à travers ça. C'est complètement un autre contexte dans lequel on se trouve présentement. Par contre, du côté des menaces, mettons, là, c'est sûr que c'est un projet numérique qui a été démarré avant le rapport Galant. Ce ne sera pas parfait, là.
Non.
Il y a beaucoup d'améliorations qu'on doit mettre en place pour nos projets numériques. On le sait, on n'est pas bon, on gère mal nos projets, on fait mal nos appels d'offres. Je ne peux pas juger là, en détail pour ce projet-là pour l'instant, mais c'est sûr que mes attentes sont réalistes. D'ailleurs, j'en profite pour demander où est-ce qu'on en est sur la mise en application des recommandations du rapport Galant. Parce qu'il faut vraiment qu'on se réaligne pour les prochains projets. Maintenant, pour celui-là, j'ai trouvé que la sortie de Mme Fréchette ce matin était courageuse en passant, parce qu'elle pourrait dire « Moi, je touche pas à ça, le projet numérique, parce que je sais qu'il va y avoir des couacs, puis j'ai pas envie d'être associée à ça. » Elle a décidé elle-même de publier ce matin des vidéos sur ses médias sociaux et de communiquer pour dire « On va de l'avant, je suis rassurée, je vais rencontrer la plupart des acteurs concernés et je peux vous dire que je pense que la chose à faire, c'est d'aller de l'avant avec ce projet-là. » J'ai trouvé ça quand même audacieux, étant donné qu'elle vient d'arriver dans son poste de première ministre et qu'elle pourrait vouloir éviter de toucher à quoi que ce soit là, sur quoi elle pourrait se brûler.
Ajoutes-tu sa lune de miel samedi, le 9 mai?
Je pense qu'effectivement, elle joue un peu sur sa lune de miel, mais en même temps, il faut le rappeler, là, la CAQ n'a rien à perdre, Jeff.
Ben c'est ça.
T'sais, elle peut pas juste faire « bon, ben je vais faire petit peu père gouverner comme si on était juste mardi matin à tous les jours. » Il faut qu'elle fasse des gestes, il faut qu'elle démontre des choses un peu audacieuses, parce que sinon, ça ne bougera pas. Puis ça, c'est la prochaine étape. Demain, il faut qu'elle réussisse à rentrer. La vraie game commence, parce qu'elle va commencer à se faire poser des questions par l'opposition, ça va être les scrums dans les corridors de l'Assemblée nationale. C'est moins facile que quand l'Assemblée nationale est fermée. Mais la prochaine étape, c'est est-ce qu'on est capable, du côté de la CAQ, de faire bouger l'aiguille des sondages? Puis c'est sûr que le dossier santé numérique, c'en est un qui est glissant puis qui est un petit peu à risque pour la CAQ, mm-hmm. évidemment. Mais elle a décidé de le prendre de front, puis moi, je pense que c'est la bonne stratégie.
Bien, en contrepartie, on termine là-dessus, si elle gagne son pari du dossier de santé numérique, l'aiguille va bouger positivement. Là. Ça va être la preuve d'un projet réussi.
Ça dépend ce que tu mets comme indicateur de réussite, parce que c'est dans clair. Ces projets-là, si c'est que tout soit parfait et que personne chiale, moi, te le dire, Jeff, il n'y a personne qui va réussir.
Oh, ben non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais que le déploiement se fasse, comme on a dit, là, à peu près sur une période de 3 semaines, avec quelques anicroches, mais sans rien de majeur, puis qu'on soit rendu à 100% d'ici 3 semaines, moi, pour moi, ça sera un énorme gain par rapport à ce qu'on a vécu avec sa clique.
Exact. Puis c'est une promesse de la CAQ. C'est une promesse de Christian Dubé après la pandémie. Il faut numériser le système de santé. Donc, ils vont pouvoir dire que la promesse est livrée. Avant qu'on termine le caucus, prochain sondage, pensez-vous que la CAQ va avoir réussi à aller chercher quelques points?
Oui, ils vont avoir grappillé quelques points, selon moi. Il était à quoi au dernier sondage? 14 ou 15 %, là, je viens de mémoire. Mm-hmm. Moi, d'après moi, ils vont osciller pas loin du 20. Moi, je m'attends à 4-5 % de gain du côté de la CAQ. Puis je continue dans ma pensée, ça va avoir été fait au détriment du Parti libéral du Québec, qui, selon moi, s'est royalement planté avec la défense du français.
Oui, moi, je suis d'accord. Toi. Je pense aussi que la CAQ va reprendre des points. Je ne sais pas si c'est juste au détriment des libéraux. Je vois peut-être aussi au détriment du Parti québécois parce que la question souverainiste est revenue. On a maintenu notre point, on y va, puis il y a des gens beaucoup qui ont peur de ça. Mais Christine Fréchette, elle l'a dit la semaine passée, je redore l'image de la CAQ. Je pense qu'il y a des gens qui vont entrer un peu dans ce bandwagon-là.
Toi, Antoine?
Oui, à suivre. Bien, moi, je suis un petit peu de l'avis à Pascal, dans le sens que moi aussi, je pense, je dirais pas 4 points, je peut-être 2-3. Mm-hmm. On va voir. Okay. Puis je pense qu'on va aller chercher les deux bords. Et je suis aussi vraiment curieuse de savoir s'il y a un rapport avec le Parti conservateur. Est-ce qu'une remontée de Christine Fréchette touche Éric Duhaime ou pas du tout? Parce que à date, j'ai l'impression qu'il est un peu imperméable à l'arrivée de la nouvelle chef de la CAQ. Fait que j'ai très, très hâte de voir l'impact.
Un peu imperméable, mais en même temps, toujours à 14-15%. Fait que c'est un imperméable juste gagnant, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale. Puis encore là, sur la Rive-Nord, là, le PQ et le PLQ commencent à gagner vraiment du galon. Là. Donc, ça risque d'être peut-être un parti régional, le PCQ, avec quelques comptants Chaudière-Appalaches.
Encore une fois, c'est quoi les indicateurs de succès pour le PCQ? Moi, je pense pas que c'est de gagner la prochaine élection. C'est de faire une bonne entrée à l'Assemblée nationale avec quelques députés, mais écoute, ils vont dire qu'ils vont vouloir gagner, ça c'est sûr.
Je suis d'accord avec toi. Comme pour la CAQ, un indicateur de succès, même s'il était 90, ça va être de n'avoir une dizaine puis de se rebâtir tranquillement.
Absolument, on est d'accord là-dessus.
Yes. Antonin Iacarini, je me joins à tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous ont écrit pour saluer à quel point ils étaient heureux de te retrouver. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire le caucus avec toi. Et on se reparle demain.
À demain, merci.
Salut, c'est Antonin Iacarini de retour dans le caucus sur Boulevard 101, l'émission On en jase de midi à 12h30 du lundi au jeudi. Vous en pensez quoi, vous, 418-971-1021? La CAQ va-t-elle regagner des points dans le prochain sondage? D'après moi, on va en avoir un cette semaine, Pascal, un sondage. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, des nouvelles. Alex Laramie vient de nous parler de ce 7e match remporté par les Canadiens contre le Lightning de Tampa Bay et des autres séries dans la Ligue nationale. Et Mathias Turcotte a assisté à une conférence de presse qu'on va qualifier de bizarre sur les pistes cyclables de respect citoyen. C'est tout ça qui suit après cette courte pause à Boulevard 102.1 à l'émission d'En Jase. Midi 40, l'émission d'En Jase, ton émission d'actualité. Dans le prochain 30 minutes, bloc de nouvelles. On jase du 7e match avec Alex Laramie et les autres séries dans la Ligue nationale de hockey. Et Mathias Turcotte a assisté à un point de presse de respect citoyen sur les pistes cyclables. Point de presse qu'on va qualifier de particulier pour commencer. Puis on va vous laisser juger au 418-971-1021. Si vous n'étiez pas au courant, blvd.fm. On a notre web radio à cet endroit-là. Vous pouvez nous écouter également via la web radio. Et les meilleurs moments s'y retrouvent à chaque jour de toutes nos émissions. Notre application BLVD 101 qui se télécharge gratuitement sur App Store et Google Play Store. On a également les haut-parleurs intelligents. Vous dites « Écoutez BLVD 102.1 » et on apparaît dans vos oreilles. Toujours parfait pour le télétravail. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Des bons moments s'y retrouvent, notamment Demain matin, vous aurez sur notre page YouTube le podcast des grands événements. Aujourd'hui, 19h sur nos ondes, Denis Gravel qui rencontre Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. On va parler de la guerre des motards. C'est la diffusion du 4e épisode. Donc, Roger a fait partie là, justement de l'escouade Shark ici à Québec qui combattait la guerre, justement la guerre des motards entre les Hells Angels et les Rock Machines. L'escouade au niveau provincial étant l'escouade de Carcajou. Donc, c'est à ne pas manquer le conflit qui a fait plus de 150 morts dans la province, dont 9 personnes innocentes. On se rappelle là, le jeune David Labrec, justement, tué d'une bombe qui a explosé, qui était placée sous un véhicule. Donc, il avait 12 ans, il circulait à vélo. Il a reçu des débris à la tête et il est décédé. Ça avait justement lancé la vaste opération policière. Et le podcast des grands événements, bien, c'est une commandite de climatisation Paquette pour la vente du produit Mover, la marque la plus fiable selon Protégez-vous, installée par une équipe de techniciens d'expérience. C'est climatisationpaquette.com. Pascal Sévé, avant de parler sport du Canadien de Montréal et de respect citoyen, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Plusieurs choses. D'abord, la police de Québec a annoncé le nom de son nouveau chef. Il s'agit de Dominique Gaudreau. C'est lui qui succède à Denis Turcotte. Donc, Denis Turcotte qui va prendre sa retraite en juin prochain. Nomination qui va être effective après l'adoption des résolutions du conseil municipal et du conseil d'agglomération. Période de transition quand même. Là, on veut assurer la continuité des orientations actuelles, notamment en matière de lutte à la violence urbaine. Pour Dominique Gaudreau, c'est quand même un officier de carrière qui cumule près de 30 années d'expérience. Déploiement du dossier santé numérique, la première ministre Christine Fréchette affichait clairement sa posture. On ne veut plus repousser la modernisation. Ça veut dire qu'on va de l'avant avec la date du 9 mai, du moins avec deux projets vitrines, celui en Mauricie, centre du Québec, et celui à Montréal. On veut commencer les deux projets pour s'ajuster, faire les choses correctement. Bien sûr, c'est quand même hautement discuté. Beaucoup de gens sur le terrain disent qu'on ne sent pas prêt par rapport à ça et qu'on devrait prendre un peu plus au sérieux les critiques. Mais pour Mme Fréchette, la communication, elle est claire. On va de l'avant.
Très intéressant de vous lire au 418-971-1021 concernant justement cette possible remontée dans les sondages de la CAQ. Vous êtes plusieurs à le voir. Beau commentaire ici de Sylviane qui dit « Perso, Mme Fréchette est un vent frais, mais elle traîne un boulet, le nom du parti et logo. À date, elle m'impressionne par ses actions et annonces. Voyons voir comment elle continue de traduire cela sur le terrain des vaches, donc sur le plancher. Je crois aussi que le sondage va remonter pour elle, mais de là à dire que je vais voter pour elle, c'est une autre paire de manches. » Donc, en effet, les gens sont curieux, mais les gens demeurent justement très malaisés par le fait de voter à nouveau pour la CAQ après ce 8 ans d'usure du pouvoir. Alors, ça va être à suivre. La rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est demain. Évidemment, on va en jaser dans le caucus avec Antonine Iacarini.
Le service de police de la ville de Montréal va enquêter sur quelque chose d'important, sur les événements d'en fin de semaine avec les syndicats québécois qui sont dans l'embarras parce qu'il y a une vidéo qui est devenue virale. On voit une sculpture en papier mâché qui représente le ministre du Travail, Jean Boulay, mais il se fait trancher la tête par une guillotine. Ouais. On voit ensuite qu'il y a deux hommes qui lui bottent la tête. C'est assez violent. Des drapeaux de la CSN qui sont visibles tout autour de la scène. Le syndicat se dissocie de l'action. Les autres grandes centrales syndicales du Québec ont voulu aussi se dissocier rapidement. Mais on prend ça au sérieux, comme je te dis, une enquête sur les événements. Ce qui s'est passé aussi à l'Hôtel de Ville, avant de passer à Mathias plus tard, qui va nous en parler, c'est un point de quand même important à aborder, tout ce qui est la violence en politique. Et souvent, on le voit avec des élus. Cette fois-ci, c'est avec Cédric Véraud, qui est l'attaché de presse du maire de Québec, Bruno Marchand. Il reçoit des insultes comme « enculé »,« sous-fif », »,« sextoy ». Pour Cédric Véraud, c'est normal d'avoir une carapace en politique, mais ça n'empêche pas qu'il veut dénoncer les commentaires homophobes qu'il reçoit. Et ils en ont parlé publiquement aujourd'hui. On juge ça de franchement assez dégueulasse.
On les interprète. On les interprète, les chiffres. On se sert de données qui sont biaisées.
C'est pas la bonne clip.
C'est pas ça, on la fera jouer tout à l'heure. Là, c'est pas plus grave que ça.
Il n'y a aucun problème. Je peux te parler de l'opposition municipale dans le dossier. C'est Stéphane Lachance, chef de respect citoyen, qui a aussi dénoncé les attaques qui visent l'attaché de presse. Et du côté de M. Véraud, on a dit, écoutez, respect citoyen, il n'est pas en cause là-dedans. Les interactions qu'on a ensemble sont toujours assez cordiales pour la politique.
Et, on va justement entendre Stéphane Lachance à ce propos.
Se faire vilipendé comme il le fait sur les réseaux sociaux, là, intimidé, c'est pas acceptable pour personne, peu importe que ce soit des opposants politiques ou pas. J'accepte pas ça.
Oh non, du tout. Puis c'est vraiment atroce là, ce que Cédric a vécu sur les médias sociaux. N'a pas du tout à vivre ceci. Il fait partie de l'équipe du maire de Québec. Il suit partout. Puis il fait un excellent travail. Là. Il est très disponible pour nous ici à la station Boulevard 102.1. Disponible pour tous les médias, soit dit en passant, là, que ce soit d'autres stations de radio ici à Québec, même des stations de radio auxquelles le maire Marchand refuse d'aller. Il est disponible pour tout le monde. Il fait un excellent travail. Mérite pas du tout ces insultes-là. Donc, de grâce, s'il vous plaît, arrêtez les insultes envers cet attaché de presse qui fait un très, 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 très bon travail. Puis de toute façon, c'est tout simplement large de le faire derrière un clavier. C'est sûr que, tu sais, je comprends, condamne pas respect citoyen, puis respect citoyen revient, condamne les commentaires sur les médias sociaux. Moi, j'apporte toujours une bémol, là. Respect citoyen est né du mouvement Tramway No Way, puis qui laissait passer énormément de commentaires de ce type sur ses médias sociaux. Tant mieux si M. Lachance, présentement chef de l'opposition, condamne ces gestes-là.
Le gouvernement fédéral qui a annoncé des mesures de soutien, c'est 1,5 milliard de dollars en réponse à l'élargissement le mois dernier des droits de douane par les États-Unis. Bien sûr, c'est dans le contexte de la guerre commerciale. Donc, nouveau programme d'un milliard de dollars. C'est sous l'égide de la Banque de développement du Canada. On veut soutenir le secteur manufacturier. Donc, c'est quand même des bonnes enveloppes. Et ce matin, Mélanie Joly, qui est ministre de l'Industrie, était en point de presse pour en faire l'annonce. Petite nouvelle pour les États-Unis aussi, on a déployé 15 000 soldats pour débloquer le détroit d'Ormuz parce qu'il y a des centaines de navires commerciaux qui sont toujours immobilisés depuis des semaines dans le détroit.
Merci beaucoup, Pascal CV.
On en jase. Le show du casse en deux.
OK. On a dit à Mathias Turcotte, avant de venir nous parler de respect citoyen, viens donc avec Alex Laramé nous parler de ce septième match. Et avant de parler avec Alex Laramé, écoutons Martin Saint-Louis dans le vestiaire après le match.
We're not leaving! Yeah! Yeah! Let's keep going!
J'espère qu'on a payé une bonne tournée à Jacob Dabesh parce qu'Alex Laramé, c'est pas avec 9 maigres tirs au but et aucun tir en deuxième période que le Canadien était supposé gagner ce match-là.
Ah non, tu sais, soyons honnêtes, on est tous contents que le Canadien ait passé au prochain tour, mais on méritait pas ce match-là. Je pense que c'est John Cooper qui a dit on a gagné le match, mais on a perdu le pointage. Honnêtement, ouais. ça résume bien l'allure de ce match-là.
Oui, il a aussi dit dans ma carrière, les dieux de hockey ont été régulièrement de mon côté, mais ce soir, ils étaient clairement contre moi. Salut la classe de John Cooper hein, après le match. A serré la main à Nick Suzuki, lui a parlé longtemps. Il a coaché Suzuki avec Équipe Canada. A eu une super belle conversation amicale avec Martin Saint-Louis où il a échangé des sourires, de l'admiration pour l'ancien joueur du Lightning de Tampa Bay. Honnêtement, là, des John Cooper, il s'en fait plus beaucoup là, dans la Ligue nationale.
Non, tu sais, c'est sûr qu'on peut décrier certains gestes qu'il a fait dans la série, notamment après le match numéro 6.
Ben oui, là, son petit one more. Oh, mais ça fait partie de la game, comment je pourrais dire. Ben c'est oui. Les émotions. Ben Martin exactement. Saint-Louis aurait fait la même chose à Tampa Bay qu'on aurait salué son caractère.
Ben, exactement. Puis, tu sais, je pense que la réputation de John Cooper est plus à faire. Là. C'est dans les meilleurs entraîneurs-chefs à travers la Ligue. Il a tout essayé hein, contre le Canadien. Il n'a pas voulu laisser le dernier changement à Martin Saint-Louis à domicile, changer ses trios après 10 secondes. Vraiment, il a tiré toutes les cartes dans son jeu, mais il s'est buté un Jakub Dobesh qui, visiblement, était en feu puis qui a volé ce match numéro 7. Puis au final, qui a volé la série, c'est l'étoile numéro 1 du Canadien en première ronde, sans l'ombre d'un doute.
C'est clair. Mathias Turcotte, t'en penses quoi?
Ben, je veux dire, on peut pas passer outre la performance de Dobesh dans le dernier match. Par contre, je tiens à souligner notre capitaine Nick Suzuki, qui a connu tout un match hier. Je veux dire, c'est dans ces situations-là qu'on voit les vrais leaders. Puis on le savait que Nick Suzuki a quand même la trempe d'un capitaine, mais de se lever comme ça, offensivement, il a joué une coche supérieure. Défensivement, il a réussi à élever son jeu. Même si son jeu défensif était bon depuis le début de la série, Nick Suzuki, solide performance. Lane Hudson a été solide tout au long de la série. Puis Noah Dobson, à son retour, n'est pas à 100%. Malgré ça, a quand même contribué grandement à la victoire du Canadien.
Vraiment, vraiment un excellent match. 18 minutes sur la patinoire, même bloqué un tir avec sa main blessée.
Donc, c'est pas un bon match du Canadien, loin de là, mais on a eu quand même des choses encourageantes. Puis en général, on vole le dernier match, oui, mais on va pas voler cette série-là. On a été compétitif tout au long. Chaque match aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Fait qu'on peut sortir de là la tête haute puis voir de l'avant en maudit parce qu'on a une jeune équipe. Se rendre en deuxième ronde comme ça, c'est tout un exploit que l'équipe a fait.
C'est une série d'anthologie avec 7 matchs qui se sont décidés par un but. Là. Moi, je dis toujours ça, c'est des séries qui s'en vont directement à ESPN Classic. Là. Puis tu le fais jouer tout de suite le lendemain puis on pense que ça fait 20 ans, mais c'était cette année. Maintenant, les Sabres de Buffalo, Alex Laramie, équipe complètement différente du Lightning de Tampa Bay, à l'effet que c'est pas une équipe expérimentée comme le Lightning était. C'est une équipe bien bâtie offensivement, donc nécessairement, il va avoir énormément de pression sur les défenseurs du Canadien. Ce qu'on a un peu moins vu du Lightning avec des jeux, plus moi j'appelle ça SOS, là, tenter la transversale dans la zone adverse, là, ça va être on lance vers le filet puis on s'en va déranger de bêche. Mais défensivement, moins physique. Alors j'ai l'impression que c'est une série qui va pouvoir redonner un peu de lustre à des Slafkovski ou des Cole Caulfield, je me trompe-tu?
Ben, moi, je vois un peu le scénario dont tu parles. Là. Oui, qui pourrait avoir un petit peu plus d'espace. Ça reste les séries, là. Ouais. Il n'y aura pas des gros boulevards. Mais oui, le manque d'expérience des Sabres pourrait favoriser le Canadien qui, ça n'a l'air de rien, mais on a quand même un petit peu plus d'expérience qu'eux autres. Puis, devant le filet, je pense que là, on donne un gros avantage aux Canadiens. Je veux dire, Jakub Dobesh est fumant du côté des Sabres. On a changé de goaler hein, dans la première ronde. Ouais. Oui, on a gagné contre Boston, mais on a utilisé nos deux gardiens, Kapeko Lekkonen et Alex Lyon. Donc, pas un numéro un vraiment établi. Puis si je suis le Canadien, mais je veux sortir fort dès le premier match. Faut bombarder le filet justement des Sabres de Buffalo pour pas que leur gardien puisse gagner en confiance. Puis de notre côté, même si on pourrait avoir beaucoup de pression sur la défensive, Jakub Dobesh, on l'a vu, là, peut rattraper beaucoup d'erreurs. Fait que non, moi je rentre dans cette série-là en confiance avec les chances du Canadien de sortir. Moi, les Sabres, ils ont un beau parcours, mais je me dis toujours, à un moment donné, le train va finir par dérailler. Là, on connaît les Sabres, mais jusqu'ici.
Et là, tant qu'à y être, dis-nous donc ta prédiction.
Ben, moi, j'y vais Canadien en 6.
Canadien moi, en 6?
Je pense qu'on est capable d'aller voler une game à Buffalo dès les deux premiers matchs, gagner les deux à Montréal, puis ensuite terminer ça en 6. C'est ce que j'entrevois.
C'est une très bonne prédiction. Vois-tu, moi, je vais y aller avec Buffalo en 6 parce que j'ai regardé beaucoup de matchs de Buffalo contre Boston, puis je les trouve très bien structurés et offensivement. Je les trouve vraiment dangereux avec 3 trios capables de marquer des buts régulièrement. Alors, j'y vais avec les Sabres pour ceci. Et le fait qu'offensivement, le Canadien m'a déçu dans la première série. Mais écoute, j'ai flippé un bon vieux 25 cents. Face, c'était Canadien en 6, puis pile, c'était Buffalo en 6. Ça a tombé sur pile. Mathias, ta prédiction?
Je vais te suivre, Jeff, pour celle-là. Sabre en 6, puis rien contre le Canadien. Mais tout est. Il y a une équipe qui me faisait peur dans l'Atlantique, puis honnêtement, c'était pas Tampa Bay. C'était les Sabres de Buffalo. Toutes les fois qu'on les a affrontés cette saison, il y avait une équipe qui était meilleure que l'autre sur la patinoire, puis c'était pas le Canadien. Ils sont rapides, beaucoup de pression. Puis les défenseurs du Canadien, bien qui font un très bon travail. On l'a vu à plusieurs reprises cette saison. Des équipes qui mettent de la grosse pression. On a souvent de la difficulté à sortir la rondelle de la zone rapidement. Fait que j'ai pas le choix de mettre Sabre en 6, surtout en considérant Cole Caulfield qui, s'il se réveille pas, ça risque d'être très difficile offensivement pour le Canadien en deuxième ronde.
Vous, 418-971-1021, quelles sont vos prédictions dans cette série entre le Canadien et les Sabres de Buffalo? Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir à la fin de la chronique sportive de les partager. Bon, 2 séries sont commencées. On commence dans l'Est. Les Hurricanes de la Caroline qui ont battu les Flyers de Philadelphie 3-0. Encore 2 buts pour Logan Stankoven. Alex, vraiment, les Hurricanes jouent du hockey parfait depuis le début des séries.
Ouais, je pense qu'ils n'ont pas fini premier dans l'Est pour rien. Là. C'est la meilleure équipe là, de notre côté du tableau. Oui, ils vont avoir un calendrier un petit peu plus facile, si on peut dire. Là. Ils ont disposé facilement des Sénateurs, là, affrontent les Flyers. Mm-hmm. 3-0 dans le premier match. En plus, ils ont commencé la série samedi. Les Canadiens ont commencé juste notre série mercredi. Puis on entrevoit quand même, je pense que tout le monde voit une série en 6 ou en 7 là, entre Montréal et les Sabres. Tandis que du côté des Hurricanes, ça pourrait se terminer très vite. Fait qu'il pourrait avoir quand même un grand avantage pour les Hurricanes pour le reste des séries, pour la demi-finale et la finale, mais ouais, c'est un club bien rodé. Année après année, tu sais, on les voyait, les Hurricanes, ça semblait tout le temps s'effondrer au dernier moment, mais là, peut-être que c'est leur année où ils vont aller jusqu'au bout. Là, c'est un très beau club à voir aller.
Peut-être. J'ai mis les Hurricanes en 5 dans mes prédictions avant le premier match. Tu y allais avec quoi, toi?
Moi, j'ai dit Caroline en 6. J'ai pas voulu sous-estimer encore une fois les Flyers. Mais là, après le premier match, j'ai une petite sueur. Là,
ouais,
mais
c'est
d'après
ça.
Moi, Caroline, Caroline va passer.
Mathias, comment tu vois cette série?
Caroline en 4. Puis, tu sais, ça se peut que les Flyers en gagnent une, mais moi, les Flyers, c'est pas nécessairement une équipe qui m'impressionne. C'est une équipe qui ont passé Pittsburgh parce que Pittsburgh jouait mal, pas parce que nécessairement ils jouaient si
beaucoup
bien.
Beaucoup de difficultés offensivement, les Flyers.
Fait que je vois pas comment les Flyers pourraient rivaliser tant que ça avec les Hurricanes durant cette série-là.
Du côté d'une série qui est commencée dans l'Ouest hier, puis elle est commencée à coups de feu d'artifice. Victoire de 9 à 6 de l'Avalanche du Colorado. Carl Makar qui souligne son retour au jeu avec 2 buts. Quel match de fou pour un match de série où on dit toujours hey, en série, c'est corsé, chaque pouce se gagne avec difficulté. Mais là, le jeu s'est ouvert de façon extraordinaire. J'ai prédit, moi, Colorado en 6. Je pense que le Wild va donner quand même du fil à retordre à l'Avalanche. C'est une très bonne équipe de hockey. Mais on voit l'Avalanche qui est capable de gagner dans tous les styles de match à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que je les vois vraiment gagnants là, de cette série-là.
Ben oui, et moi aussi, je pense que le Colorado va avoir le dessus. Puis pour moi, l'aspect vraiment qui est la différence, c'est la ligne de centre. C'est-à-dire, regarde la ligne de centre du Colorado.
Ouais.
Nathan MacKinnon, Brock Nielsen, puis Nazem Kadri. Puis l'autre côté, oui, Eric Senek est blessé. Là, on espère qu'il va revenir. Mais quand ton premier centre, c'est Ryan Hartman, puis il prend mise au jeu contre Nathan MacKinnon. Je veux dire, l'avantage est définitivement d'un côté. Puis d'ailleurs, RDS, je regardais, tous les analystes d'RDS ont pris le Colorado. Il n'y en a pas un qui a pris Minnesota. Fait que oui, moi aussi, je vois l'avantage pour Colorado. Mais Colorado en 6, je te suis, Jeff.
Mathias, tu vas commencer
cette
série-là?
À l'encontre de tout le monde. Minnesota en 7.
J'adore!
J'ai hâte de voir le restant de la série. Ça a été tough d'un but dans le dernier match pour Minnesota. On va pas se mentir. Mais Quinn Hughes, qui est pour moi le meilleur joueur des séries depuis le début.
En effet.
Fait que regarde, j'y vais avec Star Power de Minnesota. Je sais qu'Avalanche aussi en ondes, mais Minnesota en 7.
Ce soir, 22h, les Ducks d'Anaheim qui vont visiter les Golden Knights de Vegas. Les Ducks qui ont surpris les Oilers en 6 match lors de leur première série. Leur défensive m'a tellement impressionné. Même si Connor McDavid joue avec un pied et une cheville cassée, je me dis qu'ils vont être capables de réduire un Mitch Marner qui n'a jamais bien performé en série. Fait que je mets les Ducks, une surprise, en ces matchs.
Ben écoute, Jeff, moi aussi, honnêtement, moi j'avais mis les... Je ne vais pas me cacher, là, j'avais mis les Oilers gagnants de la coupe. Là,
ouais, moi aussi, fait que regarde, on est pareil.
On est à la même place, mais c'est Anaheim, ça. Honnêtement... très beau club. Ils ont fait des beaux ajouts à date limite des transactions, notamment John Carlson. Vielle, révélation sur le quatrième trio qui a été dans les shirts de McDavid toute la série. Moi, je trouve qu'il y a un bon mix de jeunes avec des Cutter Gauthier, des Carlson qui poussent. Puis on a des bons vétérans. T'sais, on a ajouté Chris Kreider, Trouba notamment en défense, John Carlson.
Alex Killorn qui est là, qui a gagné des coupes avec le Lightning.
Non, moi, je trouve qu'on a une équipe très, très, très équilibrée. Puis moi aussi, là, j'ai pris les Ducks en 6. Je les vois passer à travers. Là. Les Golden Knights, qui est une équipe plus vieillissante. Oui, on a battu Utah, mais qui avait quand même beaucoup de matchs serrés. Non, moi, j'aime bien les Ducks.
J'y vais à l'encontre de vous autres encore. J'adore. Les gars, Golden Knights en 6 de mon côté. Je pense que l'expérience va parler dans cette série-là, comme elle a parlé dans la série contre Utah, justement. Pour moi, les Ducks et le Mammouth, c'est des équipes sensiblement bâties de la même façon. Les Golden Knights ont réussi à le faire une fois. Je pense qu'ils vont le faire une deuxième fois.
Alex Laramie, je te remercie infiniment. On se reparle demain, évidemment, parce qu'il y a 2 matchs Ligue nationale ce soir. 2e match entre les Flyers et les Hurricanes et le début de la série entre les Ducks et les Golden Knights. Salut Alex, à demain.
Salut, à demain. Là.
À demain. Vous rappelez l'élimination des Raptors de Toronto hier, malheureusement. Défaite de 114-102 face aux Cavaliers de Cleveland. Les Jays ont perdu également au Minnesota hier. Série qui s'est divisée 2-2 ce week-end là-bas.
Le midi. On en jase.
On en parlait tout à l'heure, conférence de presse de respect citoyen. Belle sortie concernant Cédric Véraud, l'attaché de presse de Bruno Marchand qui en a pris pour son rhume sur les médias sociaux. D'ailleurs, soyez à l'écoute, 15h30, il sera avec la gang de Gravel dans le retour. Donc, ça va être très intéressant comme entrevue. Puis, c'est un excellent show là, pour Gravel dans le retour parce qu'on a Éric Sauvé pour la géopolitique, ce qui se passe présentement en Iran avec le détroit d'Ormuz. Et également Francis Gosselin, chroniqueur économique, qui va être présent également vers 17h15 pour parler de l'impact économique de Star Wars parce que c'est... Mayfort, je me souviens plus trop comment on dit ça, là, bref. Là.
J'essaie de faire une référence à Star Wars.
Moi, je suis pas un fan de Star Wars. Je l'admets, là. Puis là, apparemment que le 4 mai... C'est comment qu'on dit ça, Pascal Sévèche?
Je sais pas, moi, j'ai... May the Fort be with you.
Oh, may the Fort be with you, en tout cas, bref.
Ça s'est bien passé.
Bon, c'est une histoire bidon pour moi. Ouais, on va rester dans le hockey, on va rester dans la politique municipale. Mathias, t'as cité un point de presse de respect citoyen concernant les pistes cyclables, mais là, t'es venu me voir en me disant « Ouais, Jeff, c'était pas leur meilleur.
» Ouais, non. Puis, bon, je vais vous expliquer un peu ce qui nous a été présenté aujourd'hui. C'était un point de presse de Stéphane Lachance et de son équipe, là, donc accompagné notamment de Marc Roussin, député en fait de Lac-Saint-Charles, Lac-Saint-Charles-Saint-Émile. Vous allez l'entendre également en plus de Stéphane Lachance. Ce qu'on nous a présenté, c'est un rapport citoyen de 76 heures d'observation faites par deux citoyens sur 22 sites différents. L'objectif, cibler l'achalandage des pistes cyclables, leur niveau de déneigement, etc., etc. C'était ça l'objectif de ce rapport citoyen-là. Ce rapport-là qui a coûté 5 000 $ justement au Parti Respect Citoyen.
5 000 de l'argent public, là, parce que 5 000 dépensés dans le budget de Respect Citoyen, c'est de l'argent public, guys, c'est donné justement par les contribuables.
Les deux citoyens qui ont été sélectionnés pour faire ce rapport-là sont deux anciens candidats
De Respect Citoyen. On a donné de l'argent à des amis. On décriait pas ça du côté des oppositions, là, qui sont plus à droite. Là. Ça n'a pas de bon sens de récompenser les amis dans la politique?
Ben, c'est sûr que ça amène certains questionnements.
Je suis
d'accord avec toi. Là.
Ouais. Des amis. On donne 5 000 à des amis avec notre argent, guys. Imaginez si Bruno Marchand avait fait ça. Et en passant, j'aurais le même discours pour Bruno Marchand. Je dirais que ça n'a pas d'allure qu'il l'ait fait.
Je pense que beaucoup de personnes auraient le même discours pour Bruno Marchand s'il donnait 5 000 pour un rapport citoyen à deux de ses anciens candidats.
Exactement.
C'est Éric Thibodeau, donc candidat dans Vanier-du-Berger, Isabelle Dufour, qui était candidate dans ça, les Malandres, qui ont fait ce rapport-là.
Mais ça devait être les deux seuls qui avaient vraiment l'expertise pour compter les cyclistes qui passent sur la piste cyclable, parce que, Pascal, on se le cachera pas, hein, ça demande une expertise très précise. Faut que tu sois toujours alerte, les yeux ouverts. Tu sais, c'est comme quand
t'es
un enquêteur, là, puis tu surveilles une maison avec tes jumelles.
Pas
là.
Le sarcasme.
C'est la même chose. OK, parfait, on continue.
Ben t'en parles de compter les cyclistes parce que je vous ai parlé des objectifs un peu plus larges, mais concrètement, ce qu'on a fait... Un des exemples, en fait, c'est surtout sur ça qu'on a mis de l'avant du côté de l'opposition de la Ville de Québec. Sur Chemin Sainte-Foy, le 5 mars dernier, on a fait 16 heures d'observation consécutives pour compter le nombre de cyclistes qui passaient vis-à-vis de capteurs situés sur Chemin Sainte-Foy. Puis vous allez me poser la question, mais pourquoi on a fait ça? En gros, ce qu'on voulait démontrer du côté de l'opposition, c'est que les données qu'on nous présente du côté de la ville, qui sont comptabilisés grâce à éco-compteurs, ben sont pas les bonnes et sont biaisées, etc., etc. Pour vous donner une idée, durant ces 16 heures-là, on a compté 86 vélos qui sont passés. Et si on se fie sur les données de la ville, durant ce même 16 heures-là, c'est une centaine de vélos qui sont passés. On a une différence d'environ 14.
Parfait. Donc, on a Stéphane Lachance qui nous explique ça?
Oui, justement, qui dit justement que la ville utilise ces données-là à leur avantage.
On les interprète. On les interprète, les chiffres. On se sert de données qui sont biaisées et on les met à un avantage pour prouver les aménagements puis les investissements qu'on fait. C'est une administration qui aime bien parler avec les données puis les mettre à son avantage. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Si on le démontre aussi, ça a été ça avec les foyers, c'est ça aussi dans d'autres dossiers. C'est une administration qui prend des chiffres mais qui les maquille pour faire en sorte que ça corresponde à leurs objectifs.
OK, là, Mathias, j'ai plusieurs questions pour toi, puis je veux que tu y répondes. La première chose, écosystème que tu me disais, eux, ils compilent avec l'espèce de marqueur qui est au sol.
Exactement.
Là. Donc, ça compile sur 24 heures.
Oui, ça compile sur 24 heures, ça, il n'y a pas de problème.
Puis là, ils ont fait une observation de 16 heures.
Effectivement.
Ça se pourrait-tu que la différence, ça soit dans le 8 heures qui n'était pas à côté de la piste cyclable?
Ça se pourrait.
C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse validée.
Puis là, comprenez-moi bien, chers auditeurs et auditrices, là, je suis contre le déneigement des pistes cyclables en hiver, puis je pense qu'on devrait mettre notre argent ailleurs pour le nombre d'utilisations qu'il y a. Deuxième chose, pourquoi on est obligé de donner 5000 pièces à des amis? Tu nous avais pas sorti ça, toi, cet hiver, un moment donné? Tu nous avais dit, il y a X nombre, puis là, on avait dit, voyons, le corridor de la rivière Saint-Charles, arrêtez de déneiger ça. Il y a 4 passages par jour, donc 2 fois 2 cyclistes qui font des allers-retours.
Bien, c'est là que ça devient intéressant, parce que, outre le fait que dans l'observation terrain de respect citoyen, on a noté 86 cyclistes, puis dans les données officielles, c'est plus autour de 107. Mm-hmm. Autre ça, on militait contre plusieurs choses côté de respect citoyen. Je vous ai donc fait une petite compilation des différentes critiques qui ont été amenées à la ville. Ouais. Oh, des différentes ça. Critiques. On va faire un petit fact-check de ce qui a été dit là, parce qu'il
y a quelques...
Je commence avec les données ne sont pas publiées, Stéphane Lachance.
Pour obtenir les données qui appartiennent à la ville, qui appartiennent en fait aux contribuables, il a fallu une demande d'accès à l'information. Ces données ne sont pas publiées de manière proactive. Hein? Elles ne sont pas désagrégées. Il faut aller les chercher.
Tu avais fait une demande d'accès à l'information?
Malheureusement, pour Stéphane Lachance, non. Là. Si vous voulez aller voir EcoCounter Ville de Québec, c'est un site Internet. Vous avez, en fait, sur les différents capteurs, vous avez les données à la journée même. Vous pouvez aller jusque-là. Du côté d'opposition, par la suite, ce qu'on a émis, c'est que oui, on les a pour la journée même, mais ce n'est pas suffisant. On les voudrait par tranche de 15 minutes.
Voilà.
En tout cas.
J'avoue que pour les demandes d'accès à l'information, si je veux être fair play, c'était déjà commencé à être complexe sous l'air la bombe d'avoir ce qui se passe à la ville.
Ouais, mais même ça, c'est pas complexe, là.
Non, en voulant dire, c'était complexe. Fait que là, que ce soit, mettons, puis qu'on le donne pas l'information à Stéphane Lachance, où lui doit passer par une demande à l'accès à l'information, il est là un peu.
Ouais, je sais, mais pour les pistes cyclables, c'est pas le cas.
Oui, c'est disponible. Oui, mais ce qu'il dit, il ne faudrait pas qu'on passe par une demande d'accès à l'information. Puis il faut surveiller ça.
Oui, mais c'est à lui de faire sa drop bomb et d'aller la chercher, là, la maudite donnée.
Par la suite, je te laisse entendre sur le deuxième fait que l'équipe de la chance a émis.
Toute présence sur la piste est comptabilisée comme un passage cycliste.
Ça, c'est intéressant.
Oui, vas-y donc.
On m'a répondu du côté de la ville. Ce qu'on dit, en fait, c'est EcoCounter. Qui fait justement, qui amasse les données. Eux, ils utilisent une caméra, que c'est la caméra qui compte. Puis cette caméra-là utilise notamment l'intelligence artificielle, t'as aussi des personnes dans les bureaux qui gèrent ça d'un certain sens. Puis on calcule la vitesse également. Donc ce qu'on dit, c'est que parfois, c'est pas nécessairement que des vélos qui vont être pris en considération sur la piste cyclable. Mais que c'est pas vrai qu'automatiquement, dès qu'il y a un passage, il est comptabilisé. Il y a quand même un travail d'intelligence artificielle qui se fait à partir de la caméra. Il y a un travail de vitesse aussi. Il faut que tu ailles à une certaine vitesse pour être comptabilisé. Donc, selon ce qu'on nous fournit du côté d'éco-compteur, de dire tout passage sur la piste cyclable est compté, ce serait pas vrai.
Ça veut dire que moi qui cours sur le chemin 5 fois, puis qui cours pas vite, si je pile sur le fil... Je ne serais pas considéré comme un cycliste parce que je ne vais pas assez rapidement.
Théoriquement parlant, non.
Est-ce qu'on sait pour les triporteurs? Est-ce qu'on sait pour les trottinettes électriques?
Triporteurs, si on va à une... Puis trottinettes électriques, si on va à une certaine vitesse, on va être comptabilisé. Je suis pas mal convaincu. Okay. Là, je ne peux pas l'affirmer à 100%. Par la suite, prochain fait qu'on va démystifier ensemble.
Ce qui est important de mentionner, c'est cette journée-là où il y a eu un constat qui est fait. C'est que nous, on avait demandé à nos gens de compter dans les deux directions, tandis que le compteur de la ville calcule une seule direction.
Hey, attends une minute, là. Moi, je cours sur le chemin 5 fois, puis tu sais, souvent, je cours des deux côtés, puis il y a un petit fil des deux bords.
Ça calcule des deux bords. J'ai eu la confirmation, ça calcule des deux côtés. Donc ça, c'est complètement
faux. Ça fait autre chose qui ne fonctionne pas. Fait que ça veut dire là, on est rendu à 3 trucs qui, malgré leurs 5 000 $ de dépenses avec leur observateur, ne fonctionnent pas. C'est ce que je comprends. Comme ça. T'en as-tu un quatrième?
Je termine avec... vous allez entendre Marc Roussin, en fait.
Parfait.
Un gros chien. Hein? Un gros chien qui va passer dans la rue, qui va traverser dans cette intersection-là. Il est compté comme un cycliste.
Un écureuil?
Non, peut-être pas si petit que ça.
Pas d'écureuil, mais le gros chien. Mais là, le gros chien, ça dépend c'est à quelle vitesse qu'il court.
Ben, c'est ça qu'on m'a
c'est
dit.
C'est ça, mais là, s'il est en laisse, il court pas trop vite.
Parce qu'on dit, si le chien, il est vraiment gros, puis il court vraiment rapidement, peut-être que ça peut être comptabilisé. Ça, c'est le retour que j'ai eu.
Donc ben, fatigant, ces gros chiens-là. Chose certaine, là... On est là-dessus. Il y a un auditeur qui nous texte. Hey, salut les éco-compteurs. Qui paye ce service? C'est la Ville de Québec. Fait que c'est vos taxes. On est là-dessus. On a demandé l'information, savoir combien ça coûte. On va vous revenir là-dessus, mais c'est sûr que si ça coûte trop cher, inquiétez-vous pas qu'on va se dire que ça ne sera pas un bon investissement.
Mais d'ici la fin de la journée, je devrais avoir l'information concernant le coût des éco-compteurs. bon, là, la question se pose. Au final, c'est quoi le but de l'opposition avec tout ça? Puis honnêtement, je me posais la même question en écoutant le point de presse.
Ouais.
Ce qu'on veut du côté de l'opposition, en gros, si je peux vous le résumer, c'est qu'on améliore la méthode de comptage. Parce qu'on dit actuellement, les chiffres ne sont pas fiables. Donc, on voudrait une méthode de comptage.
Alors, parce que là, les gros chiens passent.
Ouais, ben c'est ça. Il faudrait vraiment être capable de différencier des vélos pis que du reste.
Mais ils ont-tu une piste de solution, par exemple? C'est-tu de mettre des observateurs à 5 000 $, des amis du parti, là, pendant 24 heures?
Ben je vous laisse écouter la réponse de Marc Roussin et par la suite Stéphane Lachance. J'ai tout d'abord demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis ensuite... ça engendrait des coûts supplémentaires. Est-ce qu'on est prêt à mettre ça en place malgré ça? Je vous laisse les entendre.
On l'a fait, ils sont capables de le faire. Et puis, s'il y a de la volonté, il y a de la possibilité. C'est simple, engager quelqu'un, vous donner un contrat 3-4 fois dans l'hiver, votre parquet-là avec un pick-up, puis compte-le.
Ben, c'est parce que ces données-là nous permettent par la suite de prendre des décisions factuelles. Ajuster le déneigement, ajuster l'utilisation. On a besoin, on ne peut pas prendre des décisions seulement sur des improvisations. Alors, c'est nécessaire, mais je ne vous dis pas de mettre quelqu'un 365 jours par année à faire ça de façon constante comme travail à temps plein. Mais...
bon, parfait, ben, c'est facile, un pick-up. Un pick-up, voilà, pourquoi pas. L'efficacité maintenant?
Oui, je termine avec ça, là, parce qu'on a eu d'autres questionnements dans ce rapport-là, autres que les données, puis les autres questionnements, honnêtement, sont un peu plus intéressantes, là, même si c'est pas le rapport nécessairement qui a permis d'amener à ces questionnements-là. On a notamment sur la façon d'en déneiger les pistes cyclables en hiver et tout. Je vous laisse écouter Stéphane Lachance.
C'est les montants qui sont investis dans ce dossier-là hivernal versus le nombre de personnes. Moi, j'ai pas de problème à continuer d'avoir des pistes cyclables en hiver. Est-ce que, par contre, d'avoir des corridors, des bollards, quand on pourrait tout simplement, avec la gratte, tout dégager la voie ainsi que la piste cyclable? C'est ces choses-là. Moi, je me souviens que dans le passé, ou en tout cas au début, les bollards, on les enlevait l'hiver pour ne pas justement les faire endommager. Puis après ça, on a décidé de les garder. C'est tout cet aspect-là, l'aspect hivernal qu'on veut traiter.
Stéphane Lachance aurait dû faire sa sortie ce matin en faisant sa revue de presse en fin de semaine, en regardant un article sur Radio-Canada qui parlait de deux commerçants sur le chemin Sainte-Foy qui disent « Oui, c'est vrai ». En période estivale, on a une certaine hausse au niveau des coûts parce que ça avait été questionné la semaine dernière, c'est-à-dire cette hausse de transactions par carte dans les commerces du chemin Sainte-Foy d'à peu près 10%, 9,90 si je me souviens bien, mais qui disent nous autres, au total tout, c'est moins 25, moins 35% de commerce parce qu'avec la piste cyclable ouverte l'hiver, il n'y a pas de stationnement, puis moi, je suis une épicerie. Fait que pensez-vous vraiment que le monde va se parquer plus loin pour faire leur épicerie, puis transporter leur épicerie? J'ai une clientèle qui est plus âgée, puis c'est une épicerie spécialisée. Il aurait dû prendre ces deux commerçants-là, les amener avec lui, puis dire « Hey, écoutez, on est d'accord, les pistes cyclables sont utilisées en été. Par contre, en allant chercher les mêmes données que tu vas chercher via, rappelle-nous là sur le web.
EcoCounter, Ville de Québec. Là, si vous voulez l'avoir, là, écrivez villedequebec.eco-counter.com puis vous y avez accès.
Et là, il aurait dû dire, savez-vous quoi? En hiver, on devrait enlever ça, ces bollards-là, comme ils viennent de dire. On devrait permettre le stationnement parce que de toute façon, c'est 1 million pour déneiger les pistes cyclables. On a besoin de ce million-là ailleurs que pour déneiger les pistes cyclables. Puis il aurait dû faire le travail que tu as fait ce matin, c'est-à-dire aller chercher l'information, à savoir quel coût avaient ces éco-comptages-là, puis dire hey, on ne s'estimera plus sur le nombre. En été, c'est populaire. On le voit juste de toute façon avec le service à vélo au RTC puis le nombre de locations. Mais en hiver, il n'y a pas d'avélo à compter du 15 novembre jusqu'au 1er mai. Ben, regardez-moi bien, il n'y aura pas de piste cyclable non plus. Puis on va venir économiser l'argent du écosystème que j'ai bien hâte de voir, l'éco-counter. Puis on va venir économiser 1 million de pistes cyclables là. Ce serait une sortie digne d'une opposition. Parce que je rejoins Alexandre. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une opposition comme ça par texto? Ben Alex, c'est pas nécessairement qu'on a fait quelque chose. C'est Sam Ahmad qui a juste été trop pourri dans sa campagne électorale. C'est plate, mais c'est ça.
Puis on fait presque le contraire de ce que t'as dit, Jeff. Là, ce qu'on demande, c'est d'un certain sens qu'on dépense, qu'on investit davantage d'argent pour avoir une méthode de comptage qu'on jugerait plus adaptée, plus précise du côté de l'opposition. Je tiens à dire quand même que du côté de la Ville de Québec, on se cache pas qu'il y a une marge d'erreur.
Là.
C'est ça, on dit.
Ben oui.
Habituellement, c'est 3 à 5 % de marge d'erreur. Puis ce que dit EcoCounter à la Ville de Québec, c'est que ça peut aller jusqu'à 10 % mais que ça va jamais au-dessus de 10 %. Ça, c'est ce qui est transmis comme information
puis
à la Ville.
Est-ce que pour eux, c'est gros, 10 %
Ben, j'ai envie de te dire que dans un certain sens, 10 % c'est pas... C'est quand même gros, mais
c'est
en même temps...
Scientifiquement, c'est assez gros.
Tu sais, dans le sens... Nos données côté vélo, côté bicycle, côté utilisation des cyclables, que ce soit piétonne ou encore en bicycle, ce qu'on veut savoir surtout, c'est les grosses tendances. C'est en hiver, à quel point c'est moins utilisé qu'en été. En été, est-ce que c'est utilisé de plus en plus année après année? Est-ce que quand on implante, par exemple, des corridors vivacité, ça augmente réellement. Mm-hmm. Si cette marge d'erreur-là est toujours présente tout au long du processus...
Ça donne quand même une idée parce qu'on va le calculer au même type de ratio.
Exactement. T'es capable de cibler tes tendances quand même. Puis au final, pour qu'une ville décide d'agir ou non, ce qui est réellement important, c'est pas qu'il y a eu 100 ou 90 cyclistes. C'est quoi la tendance d'année en année? C'est quoi la tendance si on compare des saisons, par exemple?
Je suis très d'accord avec toi, mais moi, de toute façon, j'enlèverais ça, cet argent-là, investi dans l'éco-compteur, parce qu'on a déjà le service à vélo du RTC qui nous dit c'est quoi la popularité du vélo. Puis c'est déjà inclus dans le coût que le RTC défraie.
Tu vois pas ça différent, un propre vélo qui appartient à quelqu'un?
Ben oui, tu sais, il y a une différence, mais c'est parce que je m'explique. Là, on en met en banlieue. On est rendu avec un à vélo. Là, justement, ici, en face du bureau. Puis tu vas le voir avec le compteur de vélo, si c'est populaire ou non, le vélo dans ce secteur-là. Fait que moi, je le ferais comme ça. Puis de toute façon, depuis que le monde, les pistes cyclables sont ouvertes de mai à novembre, puis sont fermées de novembre à mai. Fait que...
Au niveau des horaires des saisons, je te suis. Moi, je garderais quand même la petite nuance entre quelqu'un qui possède son vélo qui doit être compté à celui qui va utiliser un à vélo. Tu sais, des fois, les besoins sont différents là, à ce niveau-là.
C'est un bon point, dépendamment du coût, je te dirais. T'sais, j'ai hâte de voir le coût que Mathias va nous amener. Là, pour.
J'ai bien
pour
hâte ceci. Également.
Exactement, parce que si ça coûte, exemple, 400 000 $ puis qu'on pense qu'on met 1 million dans le déneigement des pistes cyclables, puis que on met je pense, c'est 25 millions qu'on met pour l'aménagement de ces nouveaux corridors vivacité. Et ça commence à faire de l'argent à peu près. Là.
25 millions cette année, oui.
C'est ça. T'es 1,4 million en dépenses récurrentes année après année pour des cyclistes en hiver. Ça fait cher. Je dis ça, puis je dis rien.
On voulait fermer des patinoires pour un coût d'utilisation plus élevé.
Ouais, 20 000, hein, 30 000. Ouais, c'est ça. Exactement. Les priorités selon l'idéologie. C'est comme ça que le maire marchand fonctionne. On s'arrête un instant et par la suite, on parle avec Mylène Moisan, chroniqueuse au journal Le Soleil. Sujet qui va t'intéresser énormément, Pascal CV, parce que ça faisait 5 ans hier que c'était le rapport de Régine Laurent sur la protection de la jeunesse. Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui n'a pas avancé? On a-tu fait un bon travail du côté du gouvernement ou non? On jase de ça avec Mylène Moisan. Malheureusement, j'ai des craintes que ça soit non. Mais on en jase.
On en jase. Jusqu'à 14h, vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
Oh oui, on jase d'actualité, on jase de sport. On se concentre sur la politique municipale, sur les grands enjeux. Et vous dire que vous pouvez réagir au 418-971-1021. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait. D'ailleurs, on vous avait demandé votre prédiction pour la série Canadien Sabre. Eh bien, c'est le Canadien en 6 qui domine à l'heure actuelle chez nos auditeurs. Les gens ont confiance, Pascal, en notre Canadien de Montréal. On va parler avec Mylène Moisan concernant justement l'anniversaire de 5 ans du rapport de Régine Laurent sur la loi sur la protection de la jeunesse. Ça faisait suite à la mort de la petite fillette de Grimbay. Ça va faire 7 ans déjà ce jeudi. Donc, quel événement triste qui avait secoué le Québec en entier. Mais avant, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Beaucoup de choses, entre autres, le dossier sur la mort de Maëline Lugé. Hein? C'est encore au Palais de justice de Québec. On en est à la fin des jours d'audience. Ça tire à sa fin après 5 jours. Et aujourd'hui, c'était le témoignage du père de la jeune Maëline. Alors, cette jeune fille retrouvée sans vie dans un boisé près de son école en novembre 2024 du côté de Lévis. Et c'est toujours chapeauté, cette enquête publique-là, par le coroner Luc Malouin. Son père était bien émotif aujourd'hui. Il est encore convaincu que sa fille n'était pas une personne suicidaire, que si on n'avait pas arrêté les recherches, on aurait pu la retrouver en vie. Je vous rappelle que le SPVL avait suspendu des recherches terrestres là, après quelques heures en espérant qu'elle se manifeste d'elle-même durant la nuit. Donc, on pensait que sans policiers sur le terrain, elle allait peut-être, et on dit ça de cette manière-là, sortir de sa cachette. Chose qui est assez difficile pour son père de le comprendre. Pour lui, c'est des erreurs, des incompréhensions qui ont un lourd impact psychologique sur les proches de cette jeune fille-là. Il y a plus de détails à venir, mais on est là-dedans encore aujourd'hui au Palais de justice de Québec.
Tu as dit que c'est la dernière journée, hein, je pense.
Non, ça tire à sa fin avec ces 5 jours-là.
Ça tire à sa fin, parfait. On se fera une petite jasette avec Victoria Barry qu'on avait eue la semaine dernière à cet effet-là, justement, avec les témoignages de la mère vendredi là, du père aujourd'hui.
La police de Québec qui a un nouveau chef de police a été annoncé. Alors, Dominique Gaudreau, c'est un officier de carrière qui cumule près d'une trentaine d'années d'expérience. Il succède donc à Denis Turcotte. Il va prendre sa retraite, M. Turcotte, en juin prochain. Déploiement du dossier santé numérique, on va de l'avant et c'est ce qu'a affirmé la première ministre Christine Fréchette. Elle a décidé de prendre les communications en main et elle, c'est clair, sa posture l'est aussi. On ne peut plus repousser la modernisation du dossier santé numérique. Donc, le 9 mai prochain, on va de l'avant. 2 projets vitrines, un en Mauricie, centre du Québec, et un autre à Montréal, malgré ce qui est dit en fait, comme quoi il va y avoir certaines problématiques sur le terrain. Et la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale, Côte-Nord, est montée au front. On n'est pas trop d'accord avec le projet de train à grande vitesse, le TGV Alto, qui doit relier Québec à Toronto. On s'inquiète des impacts négatifs sur les fermes de la province.
Déjà 5 ans pour le rapport de Régine Laurent concernant la loi de la protection de la jeunesse. Jeudi, ça fera déjà 7 ans que la petite Lily, comme Régine Laurent l'a appelée, est décédée à Grimbay, cet enfant qui a subi de la maltraitance. Et pour en parler avec nous, on a la chroniqueuse au Journal de Soleil, Mylène Moisan. Mylène, comment vas-tu?
Très bien, toi?
Ça va super bien. Mylène, excellente chronique que tu as fait samedi dans le Journal Le Soleil où tu t'es entretenue justement avec l'ex-commissaire Régine Laurent. Dans ta conversation que tu as eue avec elle, qu'est-ce qui en est ressorti? Parce que moi, quand je regarde ça froidement, j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé aussi rapidement et de façon aussi assidue qu'on aurait dû le faire dans ce dossier-là.
Mais c'est exactement la même impression que j'avais. C'est pour ça que j'ai communiqué avec elle. Je l'ai invitée là, à me parler là, pour les 5 ans de son rapport. D'ailleurs, elle était très généreuse. Là. On a parlé pendant 45 minutes. Elle a accepté de revenir sur ces événements. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça très, très difficile psychologiquement parlant. Là. Mais après le dépôt du rapport, là, il a fallu qu'elle s'en aille 2-3 semaines très, très loin juste pour laisser la poussière retomber parce que justement mentalement là c'était très difficile. Donc c'est quand même intéressant de voir à quel point elle était investie dans cette démarche là. C'est sûr qu'elle constate qu'il y a certains changements qui ont été faits, mais comme bien des gens, elle constate qu'on n'est pas encore allé assez loin et surtout pas assez vite. Il y a encore beaucoup de problèmes sur le terrain. On fait des programmes, on essaie d'arranger des choses, mais c'est ça, les résultats tardent à venir. Il y a un gros changement qui a été fait quand même, là, c'est la loi. Il y a eu beaucoup de modifications sur la loi, mais même à ça, c'est parce qu'il y a comme une marge entre ce qu'il faut faire puis ce qui est fait. Et moi, c'est ce que je reproche beaucoup au ministre Lionel Carman. Quand il arrive un problème, c'est qu'il va dire « Ouais, mais la loi dit ça ou le règlement dit ça, et donc ça ne devrait pas se passer comme ça. » Mais le fait est que sur le terrain, il y a encore beaucoup de problèmes.
Oui, exactement. Est-ce que sur le terrain, c'est encore des problèmes de communication entre les différentes entités? Là, je sais que ça avait ressorti beaucoup dans le rapport, là, le fait qu'exemple, l'école communiquait avec la DPJ, la police, tout ça était très complexe et voire même incomplet.
Bien, je pense que là-dessus, il y a quand même des progrès qui ont été faits, mais je ne suis pas certaine que c'est vraiment ça qui a été la cause principale là, du cafouillage funeste là, qui a mené cette petite-là à la mort. Selon moi, ça existe encore, là, c'est l'incapacité souvent de la DPJ là, à changer, à modifier le tir au cours d'un dossier. Dans ce cas-ci, là, c'est assez flagrant, parce que je suis allée relire aussi le rapport de la coroner Jeanne Camel là, sur la mort de la fillette. Puis, dès le début, là, quand le père a demandé de revoir sa fille, la belle-mère a été comme vue tout de suite comme une figure rassurante, sécurisante, un élément là, positif dans la situation. Et tout le long de l'histoire, cette belle-mère-là elle disait non, ben non, faites pas ça, faites ça. Et on a toujours cru ou donné fait confiance à cette madame-là qui finalement s'est avérée une marâtre. Et de la même façon, la grand-mère qui, elle, avait eu la fillette pendant 3 ans, ses 3 premières années de vie, elle essayait de sonner l'alarme, essayait de dire aux gens que ça n'avait pas de sens, qu'il y avait plein de choses qui se passaient. Mais jamais, 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 on a remis en question cette trajectoire-là. Il y avait le rôle de la bonne belle-mère puis de la méchante grand-mère, puis ça, c'est resté jusqu'à la fin. Et ça, je le vois encore beaucoup. Et c'est un des gros, gros problèmes. Surtout que des fois, les intervenantes sont seules. Donc, il n'y a personne pour évaluer la situation. C'est sûr que des fois, ils sont validés par leur chef, mais les chefs, ils ne voient pas toujours la situation à la base. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes là-dessus. On a de la misère à se remettre en question.
On se fait souvent dire aussi à quel point, puis je ne sais pas si vous en avez discuté plus en profondeur, mais tu sais, le point 1 qui était contesté par Mme Laurent, c'était le fait qu'automatiquement, on a l'impression que la famille biologique doit être la ressource principale, la priorité, versus l'enfant et où il est bien et où il se développe. Puis le deuxième aspect, c'était toujours de devoir prouver ce qu'on avait constaté ou ce qu'on avait vu ou entendu, parce que sans preuve, on ne peut pas enlever l'enfant de cet environnement-là.
Exact, ben c'est ça, c'est ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas de visite qui était faite à l'appartement, tout se faisait par téléphone, donc c'est quand même la base là, d'une intervenante là, de constater de visu ce qui se passe, dans quel milieu vit cet enfant-là. Si on avait fait des visites surprises, ce qu'on comprend, c'est que ça aurait été évident là, que cet enfant-là aurait dû être retiré et redonné à sa grand-mère, mais ça n'a pas été fait. Puis ça, c'est avec le manque de personnel qui ne s'est pas du tout amélioré depuis, ben ça doit arriver aussi d'autres situations où est-ce qu'il n'y a pas de visite surprise, où est-ce qu'on fait les choses par téléphone, où est-ce qu'on va peut-être tourner un petit peu les coins ronds. Et ça devrait pas arriver parce que effectivement, parce que tu sais, Mme Laurent le disait, le répétait, qu'effectivement les parents sont les premiers ou les il faut prioriser les parents, essayer de les aider. Le père avait demandé de l'aide, il y en a pas eu ou il y en a eu un peu trop tard. Mais c'est vrai, ça, moi je suis d'accord avec ça, que il faut essayer de donner quand même pas plusieurs chances aux parents, mais essayer de travailler avec le parent d'une façon assez concentrée pour voir s'il y a quelque chose à faire avec eux autres avant de passer à l'autre étape. Mm-hmm. Ce qu'on constate, c'est que c'est ça, souvent, les parents, on leur reproche beaucoup de choses, mais on leur donne pas les moyens de changer. Des fois, là, on regarde même pas autour. Moi, j'ai vu des belles histoires où est-ce que, justement, c'est le temps que les parents se reprennent en main, on va confier l'enfant dans ce qu'on appelle un milieu de proximité, une tante, une grand-mère. Puis là, on voit si les parents peuvent se reprendre en main. Et là, après ça, on passe à une autre étape, mais souvent, on va passer trop vite. On va disqualifier les parents, puis après ça, on va placer l'enfant. Puis souvent, c'est ça, l'enfant se ramasse dans une espèce de trajectoire où est-ce qu'il est barouetté d'un milieu à l'autre. Donc, si on pouvait là, avoir vraiment des ressources pour les parents. Puis ça, Mme Laurent, là, elle me l'a répété, là, je pense, 30 fois, la prévention, c'est le plus important, la première ligne des organismes communautaires. Les parents sont plus en confiance avec un organisme communautaire qui peut pas te retirer ton enfant que la DPJ, qui tout de suite, il y a toujours cette espèce de possibilité-là que tu perdes ton enfant. Donc ça, je pense que c'est un des gros, gros problèmes, là, c'est qu'on n'a pas assez mis de ressources dans le communautaire dans la première ligne.
Non, en effet, je suis très d'accord avec toi. Et en terminant, Mylène, est-ce que ça pointe à l'horizon cette fameuse première ligne qui se réorganiserait différemment? Parce que c'est vrai, le mot pour entrer dans les organismes communautaires, les parents ont vraiment confiance en nous quand on tente de les outiller. On avait même des formations, justement, pour les parents au Patro Charlebourg où je travaillais, puis ils étaient beaucoup plus en confiance que quand la DPJ débarque, ils voient ça comme la police. Là.
Ouais, donc ça pointe pas très fort à l'horizon.
Non, c'est ça, hein.
Il y a quand même une volonté. Ben, les budgets ont été quand même augmentés, là, des organismes communautaires de famille. Mais c'est là qu'il faudrait vraiment, vraiment, là, pas lésiner puis mettre tout ça pour que les enfants aient toutes les ressources. On sauverait des milliards, là, en prison, en hôpitaux, en bonheur collectif, là. Je veux dire, moi, je pense qu'il faudrait vraiment, là, tout miser sur l'enfance, sur les ressources de la première ligne.
Mylène Moisan, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, puis on se tient au courant lorsque tu auras une autre chronique là, concernant surtout là, la direction de la protection de la jeunesse. Ça nous touche beaucoup ici à Boulevard 102.
Ouais, Ça fait toujours plaisir.
Merci. Salut, Mylène Moisan. Si vous n'avez pas lu, allez la lire. Sa chronique de samedi s'est entretenue pendant 45 minutes avec l'ex-commissaire Régine Laurent.
Tu sais, des fois, on se sent impuissant dans des situations où on ressent de l'injustice, puis ça vient nous prendre en dedans. Quand on entend que Régine Laurent a dit que psychologiquement, ça l'avait brassé, ouais. Là, faire en fait cette commission-là. Je sais pas si c'est pire des années après, cinq ans après, quand tu vois qu'il y a peu de choses qui ont bougé, mm-hmm. puis que tu sentais qu'elles étaient urgentes cinq ans auparavant. Tu sais, tu as été consciente de tellement de choses, de tellement de témoignages, du terrain. Ça t'a brassé psychologiquement, puis tu te dis, Colin, au moins, pendant que je travaillais, ouais. ben il y a des choses qui vont peut-être s'améliorer ou changer. Puis là, cinq ans plus tard, tout est à comprendre que le constat, il est pas mauvais, mais il est mm-hmm. pas super bon non plus. Comment ça joue sur le mental?
Oui, ça doit être très, 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 très difficile. Puis, tu es en politique, moi, je suis en train de me poser la question. On parle beaucoup d'économie, on parle de finances publiques, on parle des guerres tarifaires, etc. Mais on parle jamais d'humain. Puis, il y a eu une bonne sortie en fin de semaine de Paul Saint-Pierre Plamondon là-dessus concernant l'itinérance. Moi, je m'attends en campagne électorale à ce qu'on me parle de protection de la jeunesse, à ce qu'on me parle d'itinérance, à ce qu'on me parle des banques alimentaires.
Parce que les problèmes partent de là aussi.
Ben oui.
De l'enfance.
Oui, puis justement. Dans quelques instants, après la pause, on va parler de la hausse de la violence conjugale. C'est des chiffres astronomiques. On a deux cas, justement, aujourd'hui, dans le Journal de Québec, aussi, de peine bonbon, pour faire un suivi sur ce qu'on parlait vendredi. Puis, je vais partager aux hommes quelques façons de, t'sais, votre impulsivité, là. Être capable de travailler là-dessus, de la refouler. Je vais vous partager ça parce que je pense que collectivement, on est capable de se prendre en main pour faire en sorte qu'on diminue ces cas-là. C'est exponentiel. C'est 19 % de hausse de violence conjugale depuis 2005. Et juste l'an passé, c'est 21 679 femmes qui en ont été victimes au Québec.
Fait que de l'autre côté de la pause, c'est une conversation d'homme à homme?
Homme à homme de l'autre côté de la pause. C'est en plein ce qu'on va faire. Jusqu'à 13h43 précisément, c'est l'émission Nangeuse, notre émission d'actualité sur les ondes de Boulevard 101 de l'heure du dîner, de midi à 14h. 14h, c'est le retour de Gravel. À 18h, Marceau du soir avec Marc Bellemare. Et à 19h, ne manquez pas le podcast des grands événements, quatrième épisode avec Roger Ferland sur la guerre des motards. Donc, restez à l'antenne de Boulevard 101. D'ailleurs, à 15h30, ce sera l'attaché de presse Cédric Véro, l'attaché de presse de Bruno Marchand qui sera en entrevue dans Gravel dans le retour. Il a été là, victime de propos très haineux sur les médias sociaux ce week-end. Des propos qui n'ont pas lieu d'être. À la météo, 10 degrés aujourd'hui, possibilité d'averse. On le sent, là, c'est humide, il y a un couvert nuageux. 17 degrés demain, il y aura des averses. Donc, on parle avec des vents en rafale qui peuvent aller jusqu'à 70 km/h en mi-journée. 8 degrés de la pluie pour mercredi. Jeudi, 7 degrés des averses et le soleil est de retour vendredi avec 11 degrés. Pascal, avant qu'on parle de hausse de cas de violence conjugale et de peine bonbon, il faut faire une petite mise à jour sur ce qui se passe en Iran dans le détroit d'Ormuz.
Oui, l'Iran a tiré des missiles en guise d'avertissement dans cette mission américaine dans le Golfe parce que la marine italienne avait dit « Bon, n'approchez pas, vous rentrez pas dans le détroit d'Ormuz. » C'est malheureusement pas ce qui s'est passé. Je dis malheureusement parce que ben, vous connaissez Donald Trump. Lui, quand il va de l'avant, il va de l'avant. Et là, il était tanné que les navires soient bloqués. Alors, il a annoncé un geste qui s'est dit humanitaire, de bonne volonté, en faveur des navires qui étaient bloqués par la fermeture là, du goulet. Il dit « Ça n'a rien à voir avec le conflit, mais nous, on avance. » Et là, l'Iran, dans les dernières heures, a décidé d'envoyer des drones, des missiles, des roquettes, des missiles de croisière aussi pour montrer leur intention de réagir.
Récit très, 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 très courageux de deux femmes aujourd'hui dans le Journal de Québec, Jessica Dupuis et Mélanie Castillou, qui ont été sous le joug dans deux séquences différentes d'un homme très violent vers les femmes, c'est-à-dire Yvan Dufresne. Et malgré le fait qu'elles ont vécu l'enfer pendant 17 ans, si on combine les années passées auprès de cet homme, des deux victimes, qu'elles ont été étranglées, battues, etc., bien la juge a cru bon de louanger le cheminement de l'accusé lors de la divulgation de la peine et c'est seulement 30 mois de prison que cet homme, Yvan Dufresne, a à purger à l'heure actuelle. C'est un événement qui s'est passé en Gaspésie. Et même principe du côté d'une victime qui a tenu à garder son anonymat, de David Derry Bédard, un militaire présentement pour l'armée canadienne qui, malgré le fait qu'il ait étranglé son ex-conjointe, ben, on lui a donné une absolution conditionnelle parce que, potilou, il faut qu'il reste dans l'armée. Fait que c'est pas de sa faute. Il a étranglé sa conjointe, mais Poti va perdre son travail.
Faut qu'il continue de travailler.
Faut qu'il continue de travailler, il va perdre son travail.
Des fois, ça saisit, hein, lire des affaires comme
ça. Exactement. Et d'ailleurs, la victime a témoigné. Et vraiment, c'est extraordinaire comment qu'elle l'a mentionné. Elle a dit, dans leur formation, les juges devraient vivre une simulation d'étranglement de 30 secondes pour mieux comprendre, a-t-elle suggéré. Ouais, si t'es fait étrangler pendant 30 secondes, peut-être que... Puis là, je vais répéter son nom là, pour que tout le monde le sache. Là. Peut-être que David Derry Bédard, là, tu le verras pas comme un potilou.
Mettons qu'il est brimé dans ses droits ouais, de la personne. Peut-être que ça irait moins chercher les gens.
Exactement. Donc, très, 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 très bon dossier. Ça s'est poursuivi ce matin. Journal de Québec, Journal de Montréal sur ces peines bonbons. Et j'ai lu là-dessus, justement, aujourd'hui. J'ai voulu me documenter sur la violence conjugale puis je me suis rendu compte que ça n'a pas de sens. C'est en hausse drastique, Pascal. 19 % depuis 2005. C'est 21 679 femmes qui ont été victimes de violences conjugales au Québec.
Mais je me demande, c'est-tu parce qu'elles portent plus plainte? C'est-tu parce qu'elles le mettent plus en lumière? Parce que sinon, il est où l'épicentre là, de cette violence-là qui est en montée? Qu'est-ce qui fait sauter?
C'est clair, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'impulsivité aussi présentement chez les hommes.
Vraiment inquiétant, là.
Vraiment, vraiment inquiétant. L'impulsivité dans les couples, là, il y a différents facteurs. Peut avoir les problèmes financiers qui frappent énormément de couples à l'heure actuelle avec la hausse du coût de la vie. Mais aujourd'hui, je veux juste donner quelques petits trucs à des hommes pour gérer leur impulsivité. Moi, c'est de l'impulsivité que j'avais envers moi-même avec ma tentative de suicide. Alors, j'ai suivi des séances, 20 cours de gestion de mon impulsivité.
Est-ce que tu y allais à reculons au départ?
Du tout. Moi, j'ai foncé là, tête baissée. Il y avait des hommes, parce qu'on était 8 hommes, c'était des groupes de discussion qui étaient dans la salle.
Pas tout le monde devait être à l'aise d'être là.
Non, 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 il y en avait qui étaient là, là. Puis tu sais, je le cache pas, là. Il y en avait qui étaient là parce que c'était la justice qui leur avait dit « Hey, mon batteur de femme, tu vas aller t'asseoir là puis tu vas gérer ton impulsivité. »
Puis t'as-tu vu que ça a Eux autres été sont bénéfique à reculons. Pour certains?
Ça a été bénéfique pour plusieurs. Vraiment, vraiment, vraiment. Je peux pas dire pour la totalité du groupe. Puis là encore là, on est 8, mais c'était pas tout le monde qui était rendu à la même semaine. Fait que tu comprends que ça faisait en sorte que j'ai peut-être vu 12 ou 13 personnes là, au total. Moi, c'était vraiment parce que j'avais fait appel, puis d'ailleurs, vous pouvez faire appel là, au 8-1 service social, donc option 2. Puis j'avais dit, hey,
je
me
d'être.
Rends compte qu'en dedans, là, ça bouille tout le temps. Là, t'sais.
Comment je fais pour calmer ça?
Je suis chanceux. Ça n'a jamais sorti physiquement ou verbalement avec une grosse crise, mais je l'ai là en dedans. Fait qu'avant que ça sorte, là, c'est quelqu'un qui peut m'aider. Puis c'est exactement les cours que j'avais suivis. Fait que premièrement, c'est que quand vous sentez, justement, moi, c'était simple, là, les symptômes, là, je chantais à boule ici, en plein centre. Là.
Dans le ventre.
C'est comme, ouais, puis c'est comme si mon cerveau devenait embrouillé. C'est comme si là, il n'y a plus rien qui rentre. C'est juste
pas de rationalité. Dans mon
exactement. Fait que c'est un signe. Fait que quand moi j'ai ce signe-là, à cette heure, je fais tout simplement me retirer de la communication ou de l'endroit où je suis. Puis je dis, hey, je vais prendre une pause. Puis je m'en vais. Fait que comme ça, je suis pas à risque que ça explose. Fait que c'est un des premiers pas à faire. Évidemment, on recommande beaucoup aux hommes qui vivent avec des problèmes d'impulsivité de faire de l'activité physique. Parce que tu vas te dépenser là-dedans. Fait que c'est pas pour rien. Moi, je suis au gym, je cours. Ça m'aide. Ça me permet justement de je vais le dire comme ça, là, cette énergie-là que j'ai. Là,
de la traduire en énergie positive.
Exactement, au lieu de la traduire en énergie négative. Évidemment aussi, puis c'est quelque chose que je fais depuis ces cours-là, on dit pratiquer la pleine conscience.
Ça, je pense que c'est un peu ésotérique pour certaines personnes, ouais. Moins facile à appliquer.
Exactement, moi je le dis, là, je m'assois 15 minutes par jour dans mon divan ou sur mon lit, n'importe où, dans le sous-sol. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bruit, pas de son, pas d'image. Puis là, je fais juste réfléchir à ma journée. Je fais juste me dire, OK, je prends un moment de détente. Je prends un moment de repos.
Ça a bien été, ce mois. Exactement. Qu'est-ce que je peux apporter comme solution?
Ça a été quoi mes réussites aussi? Parce qu'en voyant tes réussites, bien évidemment, tu es moins frustré de la vie après. Là,
je pense que c'est une des plus belles choses. En plus, ça te permet d'être présent, d'être ancré dans ta vie. Là.
Exactement. Donc, ça permet de... Ça vient en lien avec un autre truc là, qui est utiliser la visualisation. Là, c'est-à-dire te dire, OK, ça va mal. Mais pourquoi ça va mal? Qu'est-ce que je pourrais régler? Je préfère comme piste de solution au lieu que ça dérape, justement.
Puis de aussi, je pense, de te mettre en mode solution versus je suis une victime dans ma vie.
En plein ça. T'as tellement, tellement, tellement raison. Puis vraiment, là, la meilleure façon, c'est que si quelque chose vient vous fâcher dans votre vie, faites un décompte de 10 dans votre tête. déjà là, ça va diminuer. L'estime qui est montée, là. Là, tu prends une pause, puis tu comptes bien tranquillement. Un, deux, puis là, déjà là, là. Plus les secondes vont arriver, plus ça va.
Ça paraît tellement niaiseux, mais c'est fou.
Ça paraît niaiseux, mais c'est tous des petits trucs comme ça. Puis, tu sais, je voulais en parler parce que c'est des petits trucs que tout le monde est capable d'appliquer.
Qu'on vive ou pas de la violence conjugale, qu'on soit quelqu'un d'impulsif ou pas, là.
Exactement. Puis, ça peut faire en sorte, là, justement, que. Ça peut faire en sorte que ça nous permette, justement, de régler des problèmes de société comme la violence conjugale parce que ça n'a pas d'allure, justement, les statistiques. Vois-tu, un autre sœur qui nous écrit « Pour ma part, je fais la pleine conscience en promenant mon chien. » Très efficace aussi, en effet. Marche en plus, ça fait partie de l'activité physique. Au grand air, tu t'aères l'esprit. Donc, excellent truc. Félicitations. On s'arrête une dernière fois, puis par la suite, on se fait juste un petit résumé des matchs de hockey de ce soir dans la Ligue nationale.
VAR 102-1 avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Pas de Canadien de Montréal ce soir, Pascal CV. Ça va mercredi, le début de la série entre les Canadiens et les Sabres de Buffalo.
Est-ce qu'ils sont plus forts, les Sabres, que le Lightning?
Les Sabres ont une attaque beaucoup plus puissante physiquement que le Lightning. Puis je te dirais que oui, on finit en avant du Lightning dans l'année.
Ouh, enfin que ça va être une série difficile.
Moins d'expérience pendant, mais oui, ça va être une série très difficile. Mais ce soir, 19h, c'est le deuxième match entre les Flyers de Philadelphie et les Hurricanes de Caroline. Et 22h, c'est la série entre les Ducks d'Anaheim et les Golden Knights de Vegas qui débute. Tout ça est sur les ondes de TVA Sports. Donc, pour les amateurs de hockey, vous allez en avoir pour votre argent quand même à soir, même si c'est pas le Canadien. 11 000 $ de bière vendue vendredi à la cage au sport Le Bourgneuf. 11 000.
C'est payant là, pour les bars sportifs, mais c'est le fun de vous y voir.
Exactement. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Merci, guys, d'avoir été à l'écoute. On se dit à demain.
Salut.
Salut.